18h-20h,
votre grand journal du soir,
Nathalie Lévy.
Bienvenue à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en direct sur Europe 1, c'est votre grand journal du soir, actualité chargée ce soir avec notre journaliste Sébastien Krebs dans un instant pour un journal complet, il s'installe. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Nathalie. Bonsoir.
Bienvenue à vous, 2 heures d'information, d'analyse, de débat, 18h20, notez bien, je recevrai le député Les Républicains du Lot, Aurélien Pradier. Il est l'auteur de la proposition de loi contre la violence faite aux femmes. Il préconise notamment le port du bracelet électronique, le bracelet anti-rapprochement. Il nous expliquera et nous donnera aussi le délai pour cette utilisation en France. 19h30, notre débat du soir, comment intégrer au mieux nos aînés dans nos sociétés modernes. 2 journalistes ont parcouru le monde pour recenser des initiatives pour rapprocher les générations. C'est une vraie question d'utilité publique. Partagez vos expériences et contactez-nous sans hésiter au 39 21. L'info qu'il vous faut, c'est votre grand journal du soir sur Europe 1 et c'est jusqu'à 20h. Bienvenue à tous.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
J'ai soumis 3 noms. On m'a dit, votre nom est formidable, on le prend. Et puis à la fin, on me dit, finalement, on n'en veut plus. Les mêmes. Il faut qu'on m'explique.
Le camouflet du Parlement européen qui met Emmanuel Macron en colère ce soir. La candidate française à la Commission européenne, Sylvie Goulard, retoquée par les eurodéputés.
Les présidents les accusent de petitesse. Dossier complet à Bruxelles et toutes les explications politiques avec David Doucan.
Dans l'actualité aussi ce soir, les ouvriers le craignaient. C'est confirmé, l'usine Michelin de La Roche-sur-Yon va fermer.
Ça m'a coupé le souffle, ça m'a foutu un coup de couteau dans le cœur, C'est dur.
Plus de 600 emplois vont disparaître, nous serons sur place.
Dans ce journal également, des perquisitions à Rouen, chez Lubrizol.
Et à l'étranger, l'inquiétude qui grandit, l'offensive menée par la Turquie peut-elle ressusciter Daesh? On posera la question à Didier François.
Et on y reviendra longuement avec nos grandes voix dès 18h30. Enfin, un moment de politique surprenant, François Fillon qui réapparaît et se lâche. Ça se passe à la télévision suisse. Hein.
Quand j'étais ministre des Affaires sociales, j'ai fait une réforme des retraites, j'ai mis 2,5 millions de personnes dans la rue. Macron, c'est un petit joueur à côté. Ouais. Voilà.
Macron, petit joueur, on vous fera entendre la séquence complète. La Bourse de Paris reprend des couleurs en forte hausse, plus 1,27% à 5569 points.
Et la tendance météo, c'est avec vous Anissa. Bonsoir.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Et bien demain, c'est le grand retour du soleil sur une très grande partie du pays et les températures seront estivales dans le sud.
Europe 1.
Elle était la candidate de la France, la candidate choisie par Emmanuel Macron pour rejoindre la nouvelle Commission européenne. Et la claque est violente, c'est du jamais vu. Un candidat français retoqué, Sylvie Goulard, a vu son nom tout simplement rayé de la liste par les députés européens. Bonsoir Isabelle Horry.
Bonsoir Sébastien.
On vous retrouve à Bruxelles pour les explications. Sylvie Goulard passait aujourd'hui son 2e grand oral devant les parlementaires. Elle a essuyé un camouflet, un vote extrêmement clair.
Oui, sans appel, hein, en commission parlementaire, 82 élus ont voté contre elle, 29 pour elle seulement. Un vrai séisme politique à Bruxelles. Dès ce matin, pendant l'oral de rattrapage, on avait senti les réticences des élus sur 13 questions posées. 8 questionnaient encore l'intégrité de Sylvie Goulard et notamment le fait qu'elle ait été payée par une fondation américaine pendant son mandat d'eurodéputée. Écoutez Manuel Bompard de la France Insoumise.
Pensez à ses ouvriers, ses employés, ses salariés, aujourd'hui au chômage en raison de l'appétit féroce de quelques financiers. Pensez-vous leur donner confiance alors que vous avez reçu 330 000 euros au total de la part du propriétaire d'un fonds vautour américain ?
L'autre volet sur lequel elle a été à nouveau attaquée, c'est l'affaire des assistants fictifs du MoDem, celle qui l'a conduite à quitter le ministère des Armées il y a 2 ans, au nom des conservateurs européens. François-Xavier Bellamy est revenu sur ce point.
Vous aviez évoqué il y a quelques années, alors membre de ce Parlement, la nécessité de ne choisir pour la Commission européenne que des personnes absolument irréprochables. Et c'est cet impératif de confiance retrouvée en la vie politique qui vous avait conduit à démissionner en France. Comprenez-vous qu'aujourd'hui, nous ayons besoin de cette transparence et de cette sécurité ?
Alors on a entendu beaucoup d'élus français de l'opposition ici ce matin, mais il ne faut pas s'y tromper, ils n'ont été que les porte-parole des autres nationalités, ce que l'ampleur du vote reflète.
Isabelle, la question qu'on se pose ce soir, c'est maintenant que Sylvie Goulard est écartée, est-ce que la France va pouvoir conserver ce portefeuille immense qui lui était attribué ?
C'est désormais la priorité numéro 1 et quelques minutes après le résultat du vote, elle était déjà dans l'esprit des proches du président Macron. La France veut absolument sécuriser ce portefeuille inédit qui va des normes à l'industrie en passant par le numérique, l'audiovisuel ou encore la défense. Est-ce que ça va être possible ? Il va falloir trouver rapidement un ou une candidate avec les épaules assez larges pour y prétendre de façon crédible.
Isabelle Horry à Bruxelles, merci. Et Emmanuel Macron a réagi tout à l'heure.
Moi je ne comprends pas Comment, quand la présidente de la commission, qui a une discussion avec les trois présidents de groupe, se mettent d'accord sur quelque chose, ça peut bouger comme ça? Donc j'ai besoin de comprendre. Moi, je suis très détendu, ce qui m'importe, c'est le portefeuille. Mais j'ai besoin de comprendre ce qui s'est joué, de ressentiment, peut-être de petitesse, mais j'ai besoin de comprendre. Et moi, j'aime que quand les engagements sont pris, ils soient tenus. Moi, je me suis battu pour un portefeuille, j'ai soumis trois noms. On m'a dit, votre nom est formidable, on le prend. Et puis à la fin, on dit, finalement, on n'en veut plus. Les mêmes. Il faut qu'on m'explique.
Bonsoir David Doucan.
Bonsoir.
On a rarement vu, entendu le président Emmanuel Macron aussi offensif, aussi en colère.
Oui, il est même furieux parce qu'on parle beaucoup de claque depuis tout à l'heure. C'est un uppercut pour le président de la République, en particulier ce président dont l'identité repose sur l'incarnation du projet européen. Et là, l'Europe lui dit de bien vouloir retourner à ses chères études. C'est tout simplement insupportable pour Emmanuel Macron. Donc que fait-il? Il balance tout. Toutes les coulisses du choix qui avait tant surpris à l'époque, celui de proposer Sylvie Goulard. Et il charge la présidente de la Commission. Il l'avait prévenue du risque, elle l'avait rassurée en obtenant un accord des présidents, des groupes parlementaires. On apprend tout cela de la bouche d'Emmanuel Macron. Alors il laisse s'exprimer sa colère, ressentiment, petitesse. Son entourage ajoute « jeu politique ». Le président et ses proches décrivent en fait une machination. Les conservateurs européens auraient piégé Emmanuel Macron parce que leur candidat Manfred Weber avait été blackboulé au moment de la formation de la Commission. Reste que ce rejet inédit pour la France affaiblit Emmanuel Macron. Lorsqu'il fut élu en 2017, c'était sur l'ère de l'ode à la joie. Deux ans plus tard, les amoureux de l'hymne européen peuvent craindre d'avoir perdu leur champion.
David Doucan, chef du service politique d'Europe 1. Réaction très nombreuse ce soir dans la classe politique. L'eurodéputé écologiste Yannick Jadot accuse le président d'avoir affaibli la position de la France en Europe. Il sera l'invité de la matinale à 8h20 demain matin. La France ridiculisée, réagit Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen pointe un désaveu cinglant. Emmanuel Macron apparaît de plus en plus isolé en Europe, écrit-elle sur Twitter. Écoutez l'eurodéputé du Rassemblement National, Jordan Bardella.
C'est évidemment une victoire pour les députés, c'est une victoire, je crois qu'il y a eu un sursaut démocratique aussi. C'est surtout une deuxième défaite consécutive pour Emmanuel Macron, puisque après avoir été battu dans les urnes le 26 mai, il voit là un nouveau désaveu de son choix par les députés européens. En réalité, la France n'a jamais été aussi isolée sur la scène européenne. Elle est aujourd'hui en plus humiliée parce que c'est la première fois qu'un poste de commissaire européen proposé par un chef d'État est rejeté pour un pays fondateur, pour un pays comme la France. Donc c'est évidemment un désaveu et un nouvel échec pour Emmanuel Macron qui a de plus en plus de mal à convaincre, que ce soit en France mais aussi au niveau européen.
Jordan Bardella, joint par Adrien Beck pour Europe 1.
Et on en reparle avec les grandes voix à 18h30, à 19h10 également la réaction en direct de Geoffroy Didier, eurodéputé Les Républicains. Il sera l'invité politique de David Doucan.
Il est 18h06, la suite du journal. Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
Cela fait des semaines qu'ils craignaient la fermeture de leur usine. Les ouvriers Michelin du site de La Roche-sur-Yon ont eu la terrible confirmation ce matin de la bouche de leurs dirigeants venus leur annoncer. Fermeture d'ici la fin de l'année prochaine, 619 emplois vont disparaître.
Maud Descamps, vous êtes sur place pour Europe 1. Colère et incompréhension chez la salariée, Maud, hein ?
Oui, exactement. Des salariés rassemblés depuis ce matin ici sur le parking de leur usine où d'ailleurs des pneus et des palettes brûlent depuis plusieurs heures en signe de contestation. Des salariés qui, à l'instant où je vous parle, sont en train de bloquer la voiture des dirigeants qui essaient de quitter le site. Certains ouvriers comme Françoise, plus de 20 ans chez Michelin, sont encore sous le choc de cette annonce faite ce matin.
Ça m'a coupé le souffle, ça m'a foutu un coup de couteau dans le cœur, voilà quoi. C'est dur, c'est très dur.
Et un sentiment qui domine ici ce soir, et ça a été le cas d'ailleurs toute la journée, c'est l'amertume de ces 619 salariés qui ont fourni beaucoup d'efforts pour sauver leur activité ces trois dernières années. Gigi est ouvrière, elle a 54 ans, et elle a l'impression, m'a-t-elle dit, d'avoir été menée en bateau par les dirigeants de Michelin.
Moi, je pense que c'est prendre les ouvriers pour des moins que rien. On nous a pris pour des imbéciles. On nous a vendu du rêve il y a 5 ans avec le projet Skipper, avec 100 millions d'investissements, et au bout du compte, il n'y a plus rien, quoi.
Les salariés de l'usine ont prévenu qu'ils ne reprendraient pas le travail tant qu'il n'y aurait pas de négociation avec la direction.
Maud Descamps, envoyé spécial d'Europe 1 à La Roche-sur-Yon. Et ce soir, le directeur France de Michelin, Jean-Paul Tchoketti, sera l'invité écho d'Emmanuel Dutheil. Rendez-vous tout à l'heure à 22h20. Autre dossier social, celui de General Electric. Le blocage du site de Belfort, visé par un vaste plan social, s'est poursuivi Aujourd'hui, General Electric a annoncé avoir vouloir supprimer un millier de postes en France, dont quasiment 800 à Belfort.
À Paris, Sébastien, l'occupation de la place du Châtelet par les militants écologistes, eh bien, elle se poursuit.
La quatrième journée, aujourd'hui, ils ont étendu leur blocage à la rue de Rivoli, axe très fréquenté en plein centre de la capitale.
Et puis à Rouen, les bureaux de Lubrizol ont été perquisitionnés ce jeudi.
Oui, l'enquête continue deux semaines après l'incendie. Perquisition aussi dans l'entreprise voisine Normandie Logistique, dont les dirigeants se sont exprimés pour la première fois. Lubrizol pointait leur entrepôt comme point de départ de l'incendie. Le directeur général Christian Boulocher dément.
Nous, on a fait avec des experts une analyse. Tout nous laisse à penser que ce n'est pas parti de chez nous. Ce n'est pas un silence qui cache quoi que ce soit. On n'a rien à cacher. Nous étions tous mobilisés sur la première des priorités de mettre le site en totale sécurité. La taille de notre équipe a fait que nous sommes 100% mobilisés sur ce sujet. Il faut garder la plus grande lucidité possible. La soudaineté est passée, les urgences sont passées. On va pouvoir se poser, on va pouvoir travailler et aller dans le bon sens, quoi.
Propos recueillis par Hélène Terzian à Rouen. Et demain, ce sont trois ministres qui retournent sur place. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, celle de la Transition écologique, Elisabeth Borne, et Didier Guillaume pour l'agriculture, alors que les restrictions dans les exploitations ne devraient pas être levées avant le début de la semaine prochaine. Le visage du djihad au féminin, voilà ce qu'a décrit tout à l'heure devant les assises de Paris l'avocate générale, procès du commando de femmes pour la tentative d'attentat. Vous vous souvenez, des bonbonnes de gaz avaient été disposées dans une voiture près de Notre-Dame. Des peines de 25 et 30 ans de réclusion criminelle ont été requises contre deux des accusés.
Europe 1.
Votre grand journal du soir avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
À suivre dans votre journal de 18h, l'offensive turque dans le nord de la Syrie peut-elle ressusciter Daesh? Cela inquiète et Didier François est dans ce studio pour nous éclairer sur la situation.
Et puis François Fillon réapparaît et se lâche, vous allez l'entendre à la télévision suisse.
Votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Avec d'abord une pastille sonore qui va faire parler, qui va être commentée assurément, Sébastien. On n'avait pas entendu le son de sa voix depuis des mois, hein, il faut le dire, François Fillon est apparu aujourd'hui.
Oui, François Fillon en retrait, hein, en attendant son procès prévu en février, participait à un débat aujourd'hui à Genève, retransmis sur la télévision suisse. Et il a notamment commenté la crise des Gilets jaunes sur un ton, disons, amusé. Écoutez bien, Emmanuel Macron appréciera sûrement d'être traité de petit joueur.
Si on réfléchit bien, c'est pas grand-chose cette affaire de gilets jaunes. Il y a eu au maximum des manifestations, 150 ou 180 000 personnes dans toute la France à manifester. Je vais être un peu prétentieux, mais quand j'étais ministre des Affaires sociales, j'ai fait une réforme des retraites, j'ai mis 2,5 millions de personnes dans la rue. Macron, c'est un petit joueur à côté. Ouais. Voilà. Si cette crise a déstabilisé aussi profondément un gouvernement légitime venant d'être mis en place, c'est pas bon signe, quoi.
Voilà, François Fillon, le sourire aux lèvres sur la RTS, la télévision suisse.
Ouais, c'est bizarre qu'il repasse, hein, juste avant l'élection chez les Républicains. Hein, ce sera samedi. En tout cas, retour remarqué. On en vient maintenant, si vous le voulez bien, à cette inquiétude qui grandit et pour cause dans le monde entier, alors que l'armée turque a débuté son offensive contre les Kurdes dans le nord de la Syrie.
L'offensive qui fait craindre une crise humanitaire. Une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU est prévue ce soir et la France a convoqué l'ambassadeur turc et s'inquiète des conséquences de cette opération. Bonsoir Didier François.
Bonsoir.
Tout à l'heure, le président français a pointé le risque d'aider Daesh à reconstruire son califat. Oui. Pourquoi il y a tant matière à s'inquiéter?
Parce que le problème, c'est que pour résister à l'offensive turque, les miliciens kurdes ont dû mobiliser la totalité de leurs forces. Et donc, ils ont très sérieusement dégarni les contingents qui étaient stationnés dans les régions récemment reprise à Daesh. Or, ce sont évidemment des zones dans lesquelles l'État islamique peut encore compter sur de nombreux sympathisants et dans lesquelles il dispose d'un fort réseau de cellules d'action clandestine. Ces djihadistes sont aujourd'hui beaucoup plus libres d'agir qu'hier, puisqu'ils ne sont plus sous la pression d'actions militaires menées conjointement par les Kurdes et les forces spéciales occidentales, l'offensive turque ayant mis, dans les faits, un coup d'arrêt aux opérations de la coalition antiterroriste.
Et on en voit déjà les effets sur le terrain?
Oui, absolument. Juste avant le début des bombardements turcs, un commando suicide de Daesh a lancé une attaque avec des kamikazes et voitures piégées contre le siège des unités de sécurité intérieure kurdes en plein centre centre de Raqqa. Et depuis 24 heures, de nombreux comptes rendus font également état d'embuscades, de poses de mines réalisées par les djihadistes de Daesh sur les routes de ravitaillement utilisées par les Kurdes pour envoyer leurs renforts sur le front. Alors on voit bien que, même s'il n'y a pas de coordination formelle entre l'armée turque et l'État islamique, l'organisation terroriste a bien saisi l'opportunité offerte par cette offensive pour reprendre l'initiative militaire.
L'éclairage de Didier François. Merci Didier.
Y a-t-il un risque de renaissance de Daesh ? On y vient justement à 18h30. Ce sera avec nos grandes voix dans ce studio. Et demain, ne manquez pas dans la matinale d'Europe 1 à 7h40, Al-Adissa, le représentant en France du Kurdistan syrien. Il sera l'invité de Mathieu Béliard.
En France, l'Assemblée nationale a débattu ce matin d'un nouveau dispositif destiné à protéger les femmes menacées par leurs conjoints ou leurs ex-conjoints violents. Un bracelet anti-rapprochement qui permet de les géolocaliser et de les maintenir à distance. Un dispositif qui existe déjà en Espagne. Henri de Laguerie, vous êtes notre correspondant. Quel bilan en font aujourd'hui les Espagnols ?
Eh bien, c'est un bilan plutôt positif. En 10 ans, plus de 7000 femmes en ont bénéficié en Espagne. Aujourd'hui, 1371 dispositifs sont en fonctionnement. La justice peut poser ce bracelet sur un homme violent quelques heures seulement après une agression. Les juges ont en effet 3 jours maximum pour instruire un dossier après le dépôt d'une plainte. Pour Maria Angeles Carmona, présidente de l'Observatoire contre les violences de genre, le bracelet a fait ses preuves.
C'est un outil très efficace. On n'a jamais eu d'assassinat de la part de quelqu'un à qui on a imposé un bracelet. Et ça continue de sauver la vie de nombreuses femmes.
Mais les juges ne sont pas aussi enthousiastes. L'agresseur présumé peut en effet refuser le bracelet. Et pour certaines femmes, le boîtier dont elles disposent, eh bien, c'est une source de stress. Et puis, beaucoup de dispositifs qui fonctionnent avec un GPS et non par 4G sont défaillants, comme le souligne Julia Humet, avocate.
Les bracelets posent parfois problème. Ils ne fonctionnent pas toujours, les batteries peuvent se vider, le signal disparaît et la victime reçoit des messages d'alerte. Ça n'est pas toujours la solution idéale.
Voilà, le bracelet n'est pas un remède magique, mais ici, le nombre de féminicides a été réduit de près de 45% en 15 ans. Depuis le début de l'année, 46 femmes ont été assassinées en Espagne. En France,
On a perdu visiblement Henri de Laguerie. Petit souci de liaison, mais on avait compris l'esprit. Merci beaucoup, Henri de Laguerie, correspondant d'Europe 1 en Espagne.
Et puis, on va reparler de ce bracelet, justement, le bracelet anti-rapprochement, avec cette proposition de loi déposée par le député Les Républicains, Aurélia Pradier. Il sera mon invité, là, dans 3 minutes.
Deux Nobel pour le prix d'un aujourd'hui en littérature. Il n'y en avait pas eu l'an dernier à cause d'un scandale lié au mouvement MeToo. Du coup, le comité a rattrapé le coup en récompensant une femme pour 2018, la Polonaise Olga Tokarczuk, et pour 2019, un homme, l'Autrichien Peter Handke. Il vit en France et vous l'entendrez dans le journal de 19h.
Parce que c'est là que vous revenez, mais avant, il y a 18h30, rappel des titres, et ce sera évidemment en direct. Merci beaucoup Sébastien Krebs. Anissa, c'est une belle journée qui s'annonce demain ?
Oui, une très belle journée même, mais il y a un mais, car vous le savez, il y a toujours un mais. Alors attention, sur le Nord, les Ardennes, l'Île-de-France, la Normandie, la Bretagne et le Poitou-Charentes, là, dans toutes ces régions, la journée va commencer sous la grisaille avec attention, demain matin des bancs de brouillard, des bancs de brume assez épais et assez bas surtout le matin, donc prudent si vous devez prendre la route. Ces grisailles, elles vont se dissiper au fil des heures et laisser place dans l'après-midi à des nuages. En Bretagne, sur les côtes de la Manche, là quelques gouttes sont possibles, des toutes petites averses. Et c'est là que j'arrive au beau temps. C'est au sud de la Loire, en Alsace, de l'Alsace jusqu'au sud de la France, du Pays Basque jusqu'à l'Alsace. Bref, vous l'avez compris, au sud de la Loire, c'est grand soleil dans un ciel bleu. Sur les rivages bretons, les côtes de la Manche, le vent souffle fort jusqu'à 80 km/h demain. Les températures, elles remontent doucement grâce à ce soleil qui fait ce grand retour. 4 à 15 degrés le matin de Chambéry à Brest, 12 à Paris. Demain après-midi, il fera doux dans le sud sous le soleil, 29 à Tarbes au mois d'octobre. 27 à Bordeaux, 24 à Marseille, 21 à Paris, 18 à Cherbourg et à Lille.
Europe 1.
Votre grand journal du soir à suivre, Nathalie Lévy.
On vient d'en parler il y a un instant, le bracelet anti-rapprochement est-il le moyen d'éviter les récidives dans les violences conjugales ? Je pose la question là, dans une seconde, à Aurélien Pradier, député Les Républicains du Lot, auteur de cette proposition de loi pour agir contre les violences faites aux femmes.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, c'est jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir se poursuit, Nathalie Lévy. Vous recevez ce soir Aurélien Pradier. Il est député Les Républicains du Lot et il est l'auteur de la proposition de loi pour agir contre les violences faites aux femmes.
Bonsoir Aurélien Pradier.
Bonsoir.
Merci beaucoup de nous accorder quelques minutes. Je sais que vous êtes pressé, mais merci d'être en direct.
Avec
Sur
plaisir.
Quoi repose précisément votre proposition de loi ?
D'abord sur une volonté de passer des paroles aux actes. Voilà 2 ans que nous discutons beaucoup de ces violences conjugales et voilà 2 ans au fond que nous agissons peu. Il s'agit dans cette proposition de loi de passer des paroles aux actes, notamment sur la généralisation du bracelet anti-rapprochement qu'on a testé ou mal testé dans notre pays et qu'on n'a jamais osé mettre en place, en accélérant la délivrance des ordonnances de protection qui permettent de protéger les femmes en très peu de temps. On va réduire à 6 jours ce délai, ça a été voté tout à l'heure par l'Assemblée nationale. Bref, on souhaite sur ce sujet cesser de décompter ces 118 femmes qui ont été tuées depuis le début de l'année et faire en sorte que la loi renforce son dispositif. Il faut que la peur change de camp, il faut aussi que la loi soit désormais totalement du côté des victimes.
Donc vous voulez généraliser son usage en France, sur le territoire, on l'a bien compris. Est-ce qu'on a une date ? À quelle échéance peut-on imaginer cette diffusion désormais, puisqu'on rentre dans le concret, dites-vous ?
La loi sera votée dans quelques heures, à l'évidence, à l'unanimité, ce qui est un fait tout à fait marquant dans notre vie politique.
Vous êtes sûr de cela ?
Écoutez, nous sommes en train de passer les articles les uns après les autres et tous les articles jusque-là ont été votés à l'unanimité. Donc manifestement, ce sera le cas au final sur la loi et sur le bracelet anti-rapprochement. Tout a été voté à l'unanimité avec une disposition importante. C'est que nous allons pouvoir appliquer le bracelet anti-rapprochement dès le stade préventif, c'est-à-dire avant qu'il y ait un drame. Dès le juge aux affaires familiales, dès l'ordonnance de protection, nous pourrons, comme en Espagne au fond, appliquer ce bracelet anti-rapprochement.
D'accord.
Et pour respecter notre droit constitutionnel, dans le cas où l'intéressé le refuserait, on transmet immédiatement au procureur de la République, c'est l'outil qu'on a imaginé, qui lui pourra placer en détention provisoire notamment, ou imposer le bracelet.
Alors attendez, déjà vous ne m'avez pas répondu sur l'échéance Aurélien Pradier.
L'échéance,
on parle de quelle échéance aujourd'hui ?
Elle est rapide puisque le Premier ministre a décidé de l'urgence sur ce texte, donc début de l'année prochaine, si le gouvernement met les moyens financiers, ce qui semble volontaire de faire, nous pourrons généraliser
début,
le bracelet
anti-rapprochement. Début, ça veut dire quoi ? Début, ça veut dire janvier-février, donc début 2020.
Dès que la loi va être D'accord. promulguée, nous aurons fait notre boulot à l'Assemblée nationale, j'imagine derrière que le gouvernement fera le sien.
Vous avez entendu notre journal de 18h et notre correspondant Henri de Laguérie à Madrid. Il nous expliquait qu'en Espagne, ça fonctionne, c'est vrai, mais c'est pas un sans-faute. La technologie est parfois défaillante, les batteries lâchent, c'est parfois une source de stress aussi pour les victimes avec ce bip qui peut être vraiment anxiogène. Et puis on ne peut pas l'imposer à un homme qui ne le veut pas. Comment on fait pour pallier à toutes, j'allais dire, ces faiblesses ?
Nous n'allons pas copier exactement l'Espagne et en effet sur le refus possible de l'intéressé, nous avons trouvé une solution très française. Nous avons voté tout à l'heure un dispositif qui permettra en cas de refus de transmettre au procureur et le parquet lui pourra décider de mesures, y compris de détention, donc de mesures
D'accord.
immédiates. Bon. Sur le reste, moi je pense qu'il faut que nous travaillions à la manière de le déployer. Vous savez, il y a des dispositifs qui permettent aussi que les femmes ne soient pas systématiquement alertées mais que les forces de l'ordre le soient pour éviter l'angoisse. Mais vous savez tout ça,
donc elles n'auraient pas le bip avec elles, c'est ce que vous nous dites, pas forcément.
Exactement. Pas forcément.
Donc vous n'avez pas encore le système, vous l'avez pas encore, il n'est pas encore abouti l'outil.
Il existe en Espagne, il existe dans d'autres pays
mais
voisins.
Mais la version française, pas encore.
La version française, nous allons la construire. Mais vous savez, la technologie, elle est là. Il manquait la volonté politique claire, il manquait le cadre légal, puisque la loi ne le permettait pas aujourd'hui au stade de la généralisation. Nous avons passé cette étape. Franchement, si la technique ne peut pas suivre, je serais inquiet, mais je pense qu'elle suivra.
Aurélien Pradier, que prévoyez-vous comme système d'accompagnement des auteurs de ces violences, notamment pour lutter contre les risques de récidive ? Parce que le bracelet, très bien, mais pour les professionnels et les associations, un accompagnement est indispensable.
Tout à fait. Nous avons notamment tout à l'heure voté une disposition qui désormais permettra, dès l'ordonnance de protection, donc dès le stade préventif, de commander des soins physiques, psychiques, d'un stage de responsabilité pour les auteurs de violences. Ça commence aussi par là, parce que dès cette étape-là, il faut éviter les récidives.
Mais ça, c'est pas dans le projet de loi ?
Si, c'est dans la proposition de loi. Nous l'avons voté il y a quelques minutes. Je peux vous dire désormais que ça deviendra la loi de la République.
Donc, y compris l'accompagnement, vous nous dites ?
Exactement.
D'accord. Pardonnez-moi Aurélien Pradier, mais il me semble qu'il y a eu un texte, le Grenelle, sur les violences faites aux femmes au mois de septembre, avec des propositions claires, et ce sera d'ailleurs le 28 octobre pour la finalisation. Vous n'êtes pas en train de court-circuiter le gouvernement et Marlène Schiappa avec votre texte, là ?
Pardonnez-moi de devoir vous corriger, il y a eu une déclaration de Marlène Schiappa, mais il n'y a pas eu de texte de loi.
Non, les propositions, c'est le 28 octobre. Hein, si
exactement. Mais écoutez, vous savez, ça fait des années que nous attendons, nous égrenons tous les mois le nombre de femmes mortes, nous n'avons pas besoin de nous réunir pour savoir quoi faire. Vous voyez, depuis plusieurs heures, nous débattons dans l'hémicycle, la garde des Sceaux est présente, elle est garante de la responsabilité du gouvernement devant nous. Nous sommes en train de trouver des solutions concrètes.
Clairsemé, hein, l'hémicycle et Marlène Schiappa n'est pas présente. Hein.
Non, Marlène Schiappa n'est pas présente, j'imagine qu'elle a quelque chose d'autre d'autres affaires, je le regrette
mais
d'ailleurs.
Mais en creux, Aurélien Pradier, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Que le Grenelle sur les violences faites aux femmes n'est pas suffisant et c'est pour ça que vous êtes arrivé avec votre proposition de loi?
Ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les semaines, nous comptons le nombre de mortes et que je n'imagine pas que nous attendions encore plus longtemps. Nous sommes en train de faire notre boulot de député, c'est-à-dire de faire avancer les choses. Moi, je me fatigue, je me désespère des paroles qui tombent dans l'eau, des coups d'épée dans l'eau qui ne font pas avancer la cause.
Donc
nous sommes en train de le faire.
C'était un coup d'épée dans l'eau, les propositions des Grenelles sur les violences faites aux femmes?
Dès lors que ça reste juste écrit sur du papier et dans la bouche d'un ministre, ça n'a aucune valeur opérationnelle. Ça devient valeur opérationnelle quand c'est traduit dans la loi de la République. C'est ce que nous sommes en train de faire. Vous savez, au fond, je fais mon boulot de député. C'est-à-dire de faire en sorte que nous répondions à une attente forte de notre pays, agir.
Merci Aurélien Pradier d'être sorti de l'hémicycle quelques instants pour nous répondre en direct sur Europe 1. Merci beaucoup.
Europe 1.
Votre grand journal du soir à suivre, Nathalie Lévy.
Les grandes voix, elles vont s'installer d'une minute à l'autre dans ce studio. Ce soir, autour de moi, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico. On va revenir ensemble sur la candidature de Sylvie Goulard. Vous savez, largement rejetée par les eurodéputés. Est-ce que c'est un camouflet pour Emmanuel Macron? Mais aussi les conséquences de l'offensive terrestre de la Turquie contre les forces kurdes.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1.
Europe 1.
18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Votre rappel des titres, Sébastien Krebs.
Le vote sanction des députés européens, la candidate française Sylvie Goulard ne rejoindra pas la commission retoquée par le Parlement après une deuxième audition à cause des enquêtes pour soupçons d'emploi fictif des assistants parlementaires du MoDem. Emmanuel Macron dit ne pas comprendre, voyant, je cite, peut-être de la petitesse dans le vote des eurodéputés. Notre société court un risque, il faut la réarmer, déclaration du ministre de l'Intérieur. Christophe Castaner était auditionné aujourd'hui par la commission des lois du Sénat sur l'attentat de la préfecture de police de Paris. On l'entendra dans le journal de 19h. 14 milliards de dollars récoltés pour le Fonds mondial contre le sida, engagement de donateurs publics et privés réunis à Lyon. La France va augmenter de 15% sa contribution. Un nouveau cas de violence par arme blanche touche un établissement scolaire. Ça s'est passé dans l'Essonne, cette fois au sein même d'un internat. Un lycéen de 16 ans grièvement blessé, poignardé deux fois à la poitrine. Le rectorat évoque une attaque menée par deux individus extérieurs. L'espoir d'un accord sur le Brexit est-il en train de renaître? La question se pose à la veille d'un déplacement déterminant de Boris Johnson à Bruxelles demain. Le Premier ministre évoque, aux côtés du président irlandais, un chemin possible vers un compromis sur la question de la frontière. Et puis la disparition de Marie-Josée Natf, visage familier des écrans de télévision et du cinéma dans les années 60 et 70. Elle a disparu à l'âge de 79 ans des suites d'une longue maladie.
Sébastien Krebs pour l'info et vous revenez évidemment à 19h avec un journal complet.
La météo avec Daniel Moquet. Allez, cours, terrasse, Daniel Moquet signe vos allées.
Anissa, le beau temps de retour?
Oui, effectivement, demain, une très très belle journée sur les deux tiers sud du pays. En fait, vous prenez la France et tout ce qui est au sud de la Loire demain sera ensoleillé dans un très beau ciel bleu sans aucun nuage. Alors attention, dans le nord, c'est un peu plus compliqué. La journée débute avec des brumes et des brouillards sur le tiers nord du pays. Ces brumes vont se dissiper, laisser place à des nuages demain. Quelques averses sont possibles sur les côtes bretonnes. Et puis sur les côté température, c'est plutôt agréable. Hein. 4 à 15 degrés le matin, ça grimpe l'après-midi sous le soleil, surtout dans le sud. Il fera 29 à Tarbes, 27 à Bordeaux, 24 à Marseille, 21 à Paris et 18 à Lille.
Europe 1.
Votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Avec les grandes voix dans ce studio ce soir, Catherine Ney. Bonsoir Catherine.
Bonsoir.
Charles Villeneuve est avec nous. Bonsoir Charles.
Bonsoir.
Jean-Sébastien Ferjou du site Atlantico. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir.
Merci à tous les trois d'être là. Et vous, auditeurs au 39-21, n'hésitez pas à nous appeler, à poser vos questions, à intervenir dans ces deux sujets évidemment qu'on va vous proposer ce soir. D'abord, la candidature de Sylvie Goulard à la Commission européenne, largement rejetée par les eurodéputés. Elle n'est pas parvenue, la candidate d'Emmanuel Macron, à convaincre les eurodéputés de son intégrité à l'issue de cette seconde audition, un score sans appel, si je puis me permettre. 82 voix contre, 29 pour, une abstention. Catherine Ney, c'est un cuisant revers pour Emmanuel Macron.
Oui, oui, surtout que Madame Goulard est quelqu'un qui, sur le papier, et la compétence même, elle était la commissaire rêvée pour la présidente de la Commission, parce que d'abord, elle a l'habitude du Parlement européen, elle a été la conseillère de Romano Prodi, le président de la Commission. Elle a fait un livre, L'Europe pour les nuls, qui était pour moi une bible à chaque fois que je me posais des questions sur l'Europe. Enfin, elle avait une compétence Donc, il faisait que...
Elle était germanophone.
Elle était polyglotte et germanophone. Donc, tout ça faisait que elle était vraiment la femme qu'il fallait. Moi, je trouvais personnellement qu'on lui donnait un secteur beaucoup trop grand. Hein. Le marché intérieur, ouais. L'industrie, la défense, l'espace, le numérique et la culture, certains lui ont dit, mais on dit, c'est trop. Mais, je veux dire, elle a été retoquée, en fait, parce qu'elle est au carrefour de plusieurs mécontentements. D'abord, le mécontentement, c'est Macron qui est, qui est visé. Parce qu'il a empêché que les choses se passent comme d'habitude, c'est-à-dire que le candidat du parti le plus important du parti européen, le PPE, qui a une grosse dominante allemande, et son candidat, en l'occurrence Manfred Weber, qui soit désigné comme président, en tous les cas candidat à la présidence de la Commission européenne. Et ça, il a obligé Madame Merkel à changer de candidat. Donc, ils ont ensemble élu Madame von der Leyen, qui est sûrement très bien, vous voyez. Mais ça, donc, ça n'a pas plu au PPE.
Ça, c'est pas passé.
Bon, il y a ça. Bon. Et puis, le fait que deux commissaires européens ont aussi été retoqués, dont l'un pour des histoires où on se demandait s'il y avait une situation suspecte. Alors, les députés ont dit, mais elle en a une sacrée situation suspecte. Alors, pourquoi
ces deux affaires qui lui collent encore au basque. Hein,
voilà. Elle ne pouvait pas être...
Oui, mais enfin, c'est totalement superficiel,
c'est effectivement...
Sur le plan judiciaire, je peux vous en parler.
D'ailleurs, elle n'est pas mise en examen, mais c'est quand même dont il s'agit.
Elle a été interrogée longuement, elle n'a pas été mise en examen.
Absolument.
Elle a été laissée, mais je suis tout à fait d'accord. C'est plus d'ailleurs que c'est un traquenard dans lequel elle est tombée. Il y a d'ailleurs un élément de présomption important, c'est un tweet qui a été fait par le directeur de la communication du PPE et qui, avant même qu'elle n'arrive à l'audience, en quelque sorte, là où elle va être interrogée, les gars, voilà le tweet, M. Lopez de Pablo, qui dit, le directeur de la communication du PPE, les gars, on va la tuer lors du prochain vote, mais d'ici là, n'en dites pas un mot.
Donc,
c'est en anglais. Il a été retiré, pas assez rapidement, puisque plusieurs journalistes ont réussi à le capter. Et donc, tout le reste n'est que prétexte. Le traquenard, et elle a raison, Catherine, c'est exactement
la vengeance.
C'est le tacle à Macron.
Alors Macron, il a réagi et très vivement depuis Lyon. Je vous propose de l'écouter et de commenter.
Moi, je ne comprends pas comment, quand la présidente de la Commission, qui a une discussion avec les trois présidents de groupe, se mettent d'accord sur quelque chose, ça peut bouger comme ça. Donc j'ai besoin de comprendre. Moi, je suis très détendu. Ce qui m'importe, c'est le portefeuille. Mais j'ai besoin de comprendre ce qui s'est joué, de ressentiment, peut-être de petitesse, mais j'ai besoin de comprendre. Et moi, j'aime que quand les engagements sont pris, ils soient tenus. Moi, je me suis battu pour un portefeuille, j'ai soumis trois noms. On m'a dit, votre nom est formidable, on le prend. Et puis à la fin, on dit, finalement, on n'en veut plus. Les mêmes.
Le ton est acide, Jean-Sébastien Ferjou, de la part d'Emmanuel Macron, quand il balance quand même sur ce qui s'est passé en off, en coulisses. On voit bien l'énervement d'Emmanuel Macron. Et pour cause, il se voyait comme l'incarnation du projet européen, Emmanuel Macron. Là, il a pris un sacré coup.
Cette histoire met en tout cas en lumière le nœud de contradiction qu'incarne Emmanuel Macron sur l'Europe, justement. Parce que moi, je crois malgré tout qu'il y a une double nature dans cette histoire-là. Il y a incontestablement quelque chose qui se joue par rapport à la France. Il y avait quand même des questions qui se posaient pas sur le terrain judiciaire vis-à-vis de Madame Goulard, mais sur le terrain de où vont ses loyautés. Il ne s'agit pas de les mettre en cause en soi, mais le travail qu'elle a réalisé pour un think tank américain... Oui. Pour lequel elle avait perçu une rémunération assez conséquente, alors qu'on ne retrouve pas beaucoup de traces en face. On peut comprendre que dans la culture du Parlement européen, qui est un Parlement qui exerce un véritable contrôle, ou qui a plus une culture de contrôle que ne l'a malheureusement le Parlement français, il y a quand même cette dimension-là qui se joue. Maintenant, là où je rejoins absolument Catherine Ney et Charles Villeneuve, c'est que bien sûr, il y a autre chose et que M. Macron met le doigt. Maintenant, comment peut-il nous expliquer qu'il prétend incarner plus de démocratie en Europe, quand justement il ne souhaite pas se plier au mécanisme démocratique en Europe, puisque c'était prévisible qu'il y allait avoir des auditions. Ça n'est pas la première fois que les commissaires européens sont auditionnés pour être validés quand leurs noms sont proposés. Il était prévisible aussi, après ce que rappelait Catherine Ney, que les Allemands, et notamment le PPE, aient assez mal vécu l'épisode de leur candidat pour la présidence...
Manfred Weber.
Exactement, Manfred Weber, pour la présidence de la Commission européenne.
Donc, un défaut important quand même, il ne parle pas français.
Mais je ne vous dis pas que Emmanuel Macron n'avait pas raison de préférer un autre candidat. Je vous dis juste que les circonstances étant celles qu'elles sont, il aurait pu anticiper qu'une candidature comme celle de Madame Goulard présentant les failles que présentait la candidature de Madame Goulard, ça allait être un problème.
On va se retrouver dans un petit instant avec nos auditeurs aussi qui nous appellent nombreux sur ce sujet. Sylvie Goulard, recalée. Est-ce que ça ridiculise aussi la France? On en parle dans un instant.
Nathalie Lévy et Les Grandes Voix, c'est votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix jusqu'à 19h ce soir. Catherine Ney, Charles Villeneuve et Jean-Sébastien Ferjou, directeur et cofondateur du site Atlantico. Et toutes vos réactions en direct, n'hésitez pas à interpeller les grandes voix au 39-21.
Et c'est ce qu'avait. 1, 2, 3. C'est ce que Kevin a fait depuis Nantes. Bonsoir, Kevin.
Bonsoir.
Bienvenue à vous. On est évidemment toujours sur Goulard, Sylvie Goulard écartée là ce soir. C'est quand même la douche froide pour Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous en dites, vous ?
Alors, moi, j'en tire deux enseignements, en fait, de cet épisode. Le premier, c'est qu'on dit souvent que l'Union européenne est une institution qui n'est pas très démocratique. Eh ben, on voit finalement que le Parlement européen joue un rôle et on peut refuser une candidature comme ça, là où en France, on a toujours Richard Ferrand, malgré une mise en examen, à la quatrième place sur l'organigramme de l'État français. Et le deuxième enseignement que j'en tire, c'est que finalement, ce mode de désignation avec un vote juste pour ou contre une personne est peut-être un peu dépassé quand on a un éclatement comme ça de la vie politique à la fois au niveau français ou au niveau européen, et qu'il va falloir peut-être penser à utiliser d'autres modes de scrutin, par exemple le scrutin par jugement majoritaire, qui permettrait justement d'avoir plusieurs candidatures et de trouver sur des postes comme ça à la Commission européenne des personnes consensuelles à la fois vis-à-vis des États et vis-à-vis des différentes organisations politiques.
Mmh. Bah, quand même, bon, alors merci beaucoup Kevin de votre appel. Mais la question, il y a deux questions, c'est un, le rayonnement de la France quand même, deux, la position d'Angela Merkel, plutôt l'affaiblissement encore une fois d'Angela Merkel, et puis trois, c'est la suite. Quand est-ce qu'il va nous annoncer un remplaçant après ce revers ? Parce que échaudé comme cela, pour Emmanuel Macron, il va falloir trouver la perle rare. Charles Villeneuve, Catherine Ney, Jean-Sébastien Ferjou.
Moi, je trouve que la perle rare, elle existe. Mais alors, c'est pas une femme, ça c'est vrai. Mais c'est quand même celui qui résiste assez bien au Brexit, à toutes les exigences de Boris Johnson, etc., qui est un formidable connaisseur. Bien sûr, Barnier, c'est un poids lourd de l'Union européenne. Il est immédiatement opérationnel.
On va ressortir alors ?
Mais on va ressortir. Il est dehors. Hein. Il est là. De toute façon, il est toujours l'un des principaux poids lourds de l'Union européenne. Non, non, parce que le prétexte, notamment, ce n'est pas une blanche colombe. Elle a été payée 10 000 euros par le think tank américain, etc. Va-t-en savoir pourquoi, pour infiltrer peut-être l'Union européenne.
C'est de faux prétextes.
Je mets au défi, si vous voulez, tous les investigateurs, y compris même la police, de trouver, si vous voulez, un député européen, et parmi justement les plus notables, vêtu de probité candide et de lin blanc. Je ne sais pas, mais il y en a plein qui ont deux métiers et parfois même trois métiers et trois sources, justement, de revenus. Et j'en connais quelques-uns.
Ouais. Catherine Ney, Jean-Sébastien Ferjou, c'est quand même un moment de vérité hein, pour l'Union européenne. Et puis, ça dit quand même beaucoup de choses de ce qui va se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, avec cette commission. Nos rapports Paris et la Commission européenne, ça commence quand même sous les pires auspices.
Mais c'est pas tant avec la Commission européenne, en l'occurrence, qu'avec le Parlement.
Le Parlement, bien sûr.
Madame von der Leyen, elle avait accepté le nom de Madame Goulard. Mais c'est un moment, on voit bien on voit bien le moment de confusion dans lequel se trouve l'Europe. Il faut choisir entre deux choses. Soit on se replie sur des bases plus nationales, et c'était le grand paradoxe de cette nomination-là, c'est que ça se fait au nom de la France, et en même temps, Madame Goulard, elle était plutôt, enfin pas plutôt d'ailleurs, ce sont ses convictions fédéralistes. Et donc il faut que l'Europe tranche, mais on voit bien que les rapports de force font qu'on n'est plus en état de trancher, parce que les pays d'Europe de l'Est, notamment eux, ne s'inscrivent plus du tout dans cette logique-là. On voit que l'Allemagne a tendance à s'en extraire, qu'elle a un peu perdu confiance dans la relation avec la France, et que Madame Merkel, comme je crois Catherine Ney l'évoquait tout à l'heure, a perdu la main, et que cette affaire-là montre qu'elle a perdu la main, puisqu'il y avait un accord entre elle et Emmanuel Macron, et que malgré tout, les Allemands du PPE, les parlementaires du PPE ne l'ont pas respecté.
Un mot encore, Catherine, avant qu'on aille sur la situation, évidemment, avec l'offensive de la Turquie en Syrie.
Mais non, enfin, ce qui est incroyable, c'est le score avec lequel elle a été battue.
Ah oui, parce 82 voix contre, 29%.
Non, ça, c'est vraiment la raclée, la grosse raclée. Mais je crois aussi que certains députés de son parti étaient un petit peu arrogant vis-à-vis du Hongrois qui allait se présenter parce que s'il était un proche d'Orban, ils ont aussi pas mal agacé les pays de l'Est, et ça, ils ont perdu...
De toute façon, que... c'est le prix de l'arrogance française, on l'avait vu...
Rivalité, rancœur et arrogance, c'est un peu comme
Tony
ça qu'on pourrait...
De Madame, enfin, Tony Truant et malheureuse de Madame Loiseau au Parlement européen, et on le voit, mais ça n'est pas la première fois, Emmanuel Macron, souvenez-vous, il y a eu un tas de désaveux cinglants, l'histoire de KLM remettant en cause son alliance avec Air France, sans même avoir pris la peine de prévenir Paris, alors qu'Emmanuel Macron comptait sur son alliance avec le Premier ministre néerlandais. Voilà, on voit que la France n'a plus beaucoup d'amis en Europe.
Et c'est la première fois qu'un candidat présenté par la France était recalé au Parlement européen. La dernière fois, c'était 2004, c'était l'Italie. Mais là, pour la France, ça fait très mal. Donc on y revient dans un petit instant. Restez avec nous. On va observer de près et essayer de décrypter l'offensive de la Turquie en Syrie. Et
votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy jusqu'à 19h, entourée des grandes voix ce soir. Catherine Ney, Charles Villeneuve et Jean-Sébastien Ferjou, directeur et cofondateur du site Atlantico. Et toutes vos réactions en direct, ça se passe au 39-21, Nathalie.
L'offensive de la Turquie au nord de la Syrie contre les Kurdes, les forces kurdes qui tentent de résister, mais c'est très compliqué la situation sur place. Et les conséquences évidemment qui vont venir, en tout cas qui sont redoutées pour l'instant, font croire à une renaissance de Daesh. Y a-t-il un risque? Comment vous observez la situation? Y a-t-il un risque de renaissance de Daesh avec ce plan Trump-Erdogan qui a conduit à cette opération militaire?
Bien
Charles
sûr.
Villeneuve.
Bien sûr, il a
il
toutes les cartes en main, Erdogan, de toute façon, dans cette affaire. Vous disiez qu'il y a une résistance des Kurdes, pauvres Kurdes.
Pauvres Kurdes, bien sûr.
Parce qu'ils ont au-dessus de leur tête des F-16 américains, d'ailleurs, qui ont appuyé toute la colonne de blindés depuis le début de l'offensive. Comme de toute façon, Trump, j'allais dire Erdogan, Trump, avec son tweet rocambolesque et sa remarque sur le fait que les Kurdes n'étaient pas au débarquement Normandie, c'est grotesque.
Mais le,
a ouvert la porte. Et d'ailleurs, il a pris cette décision de relever quasiment les 2000 forces spéciales américaines qui encadraient notamment les Kurdes. Les Kurdes qui ont beaucoup donné et beaucoup... payer par des morts et des blessés l'aide à la coalition internationale pour liquider justement Raqqa et liquider la plupart des places fortes de Daesh.
C'est ça. Alors, il oublie un peu vite qu'il a aidé la coalition.
Mais le risque surtout, il est pour les Occidentaux et notamment pour les Européens. Parce que dans cette affaire, si vous voulez, il y a 80 000 réfugiés. Ce sont des camps à ciel ouvert et que surveillent d'ailleurs les Kurdes, justement. Et ces Kurdes-là ont en détention, en quelque sorte, dans ces camps à ciel ouvert,
des combattants de l'État islamique,
10 000 hommes de Daesh.
Exactement.
10 000 hommes syriens et irakiens, dont 423 Français, d'origine française, dont 250 enfants, hein, il faut dire. Ce ne sont pas tous des adultes. Et donc, bien évidemment, la dispersion peut permettre le regroupement de Daesh, qui n'est pas... de toute façon éliminé à 100%, contrairement à ce que dit le président américain, qui lui ne dit que ce qu'il arrange.
Alors la question c'est ça, qu'est-ce qui va advenir de ces prisonniers, de ces combattants islamistes? La menace elle est potentiellement à nos portes.
Oui, oui, surtout que le président Trump dit, ben oui, quand on lui a demandé où vont aller ces gens, il a dit, ben ils vont aller en Europe, ils vont rentrer chez eux, donc c'est normal, il faut qu'ils soient jugés chez eux, c'est plus normal. Donc voilà, c'est quand même quelque... Mais alors, lui, il est dans sa logique, parce que depuis toujours, il a parlé maintes fois de sa volonté de sortir le pays, enfin l'Amérique, des guerres à l'étranger, l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie.
Il est dans sa logique.
Il n'est que dans sa logique. Il y a un an, il disait que la guerre, on avait vaincu Daesh et que c'était fini, et que dans le fond, il fait confiance, comme il aime bien les hommes forts, vous voyez, comme Erdogan, comme Poutine, comme
sauf que là,
le Coréen du Nord. Voilà, il pense qu'il peut faire confiance à quelqu'un qui va vraiment complètement bouleverser la carte.
Que peut faire, sauf que peut faire la France, Jean-Sébastien Ferjou? Que peut faire la France? Est-ce qu'elle a les moyens de faire pression?
Ben non, la réponse est malheureusement non, parce que c'est vrai que le tweet de Donald Trump était complètement extravagant sur reprocher aux Kurdes de ne pas avoir été là au débarquement. Les Allemands, eux, y étaient, ça n'a pas empêché les États-Unis d'aller les aider ensuite pendant des années. Mais sur la France, on voit bien, non, nous n'en avons pas les moyens militaires, parce que de toute façon, on est déjà au maximum.
François Hollande a demandé des sanctions contre la Turquie, mais ça ne vaut rien, c'est pareil.
nous n'avons plus les moyens ou mal les moyens de gérer la question turque parce que Erdogan braque une arme sur la tente de l'Union européenne en disant, et il a commencé à laisser passer des migrants, vous savez qu'on a payé la Turquie du président Erdogan pour qu'il maintienne les migrants dans des camps en Turquie plutôt que de les laisser...
Exactement.
Oui, c'est Madame Merkel
donc là, il a recommencé à en laisser passer vers l'île de Lesbos en Grèce notamment, donc je pense que les Européens de toute façon dans les faits se retrouvent bloqués là-dessus, puis il y a la question de l'OTAN tout simplement et de l'alliance transatlantique parce que ça met les Européens au pied de leur réalité. Ils n'ont pas les moyens militaires quand il y a une menace, même si elle est indirecte parce que l'État islamique n'est pas non plus totalement en train de renaître de ses cendres de manière instantanée, mais quand il y a une menace, nous n'avons plus les moyens et l'alliance transatlantique ne nous permet plus non plus d'y faire face comme c'était le cas auparavant, sans compter le fait que la Turquie elle aussi partie de l'OTAN.
Un mot de conclusion, Charles ?
Oui, simplement, il faut savoir qu'il a un intérêt aussi particulier électoral dans cette affaire. Et n'oublions pas qu'il a été rudement battu au municipal. Il a perdu deux places fortes. La plus grande ville, la plus peuplée de Turquie, Istanbul, et la capitale, Ankara. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il veut faire à l'heure actuelle ? Il veut repousser les forces kurdes le plus loin possible de la frontière, du nord-est, où se situent justement les Kurdes. Et dans cette zone, en quelque sorte, qu'il contrôlerait, il voudrait mettre à peu près 2 millions de réfugiés qui lui ont coûté cher dans les municipales, justement, 2 millions de réfugiés syriens dans cette zone autonome.
Et oui, la volonté de la Turquie aussi d'affirmer sa puissance. Les condamnations, elles sont unanimes à l'international. Et puis, Antoine nous appelait depuis Toulon. Il dit, Antoine, l'Europe doit prendre la place des Américains, intervenir diplomatiquement pour trouver un compromis. Les Kurdes sont nos alliés contre le terrorisme et la Turquie nous tient sous pression par rapport à l'immigration. C'est dans nos intérêts d'empêcher un affrontement.
Il a raison, Antoine.
À croire que Donald Trump est en quelque sorte le traître en chef dans cette histoire parce qu'il a tout oublié, en tout cas. Merci à vous les grandes voix.
Sauf ses engagements de campagne.
Sauf ses engagements de campagne, évidemment, on l'a répété. Merci à tous les trois. Merci beaucoup les grandes voix.
Europe 1.
À suivre, Nathalie Lévy. Dans un instant, le journal de 19h de Sébastien Krebs à la une de l'actualité ce soir. Emmanuel Macron qui pointe du doigt la Turquie. On vient d'en parler. Nous entendrons le président. Vous écoutez Nathalie Lévy jusqu'à 20h sur Europe 1. Jusqu'à 20h sur Europe 1. Vous écoutez Nathalie Lévy. Alors, l'actualité, je vous la livre et le programme qui va avec, bien sûr. 19h10, l'invité politique. Ce soir, Geoffroy Didier dans ce studio, député européen Les Républicains. À 19h20, demain en France, direction Marseille. Et puis, qui aura le prix Nobel de la paix ? Ce sera demain vers 11h, la réponse. Et donc, c'est dans notre rendez-vous demain dans le monde. Et puis, à 19h30, question, comment intégrer nos aînés ? Comment rapprocher les générations ? Débat passionnant dans une demi-heure. On vous attend très nombreux au 39-21. On sera aussi avec le Cirque Bouglione. Et oui, un peu de sourire en fin d'édition. L'info qui est privilégiée encore ce soir et à la une du journal de Sébastien Krebs, c'est cette situation évidemment extrême en Syrie. Emmanuel Macron qui pointe du doigt la Turquie qui prend le risque d'aider Daesh à reconstruire son califat. Nous écouterons le président de la République tout à l'heure à Lyon. Sébastien Krebs nous rejoint dans un petit instant.
Et vous pouvez bien sûr participer à votre grand journal du soir. N'hésitez pas, ça se passe au 39-21, 50 centimes la minute jusqu'à 20h. Et aussi sur les réseaux sociaux, Twitter, avec le hashtag Europe 1. Vous écoutez Sébastien Krebs et Nathalie Lévy. Europe 1, il est 19h.
Le risque d'aider Daesh à reconstruire un califat. Et ce risque humanitaire, c'est la responsabilité seule que prend la Turquie devant le reste de la communauté internationale.
La France condamne et appelle la Turquie à mettre un terme à son offensive en Syrie. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce soir.
L'autre grand titre, c'est cette claque pour la France à Bruxelles. Les députés européens retoquent la candidate française pour la Commission, Sylvie Goulard.
Dans ce journal également, il faut réarmer la France, dit Christophe Castaner devant les sénateurs après l'attentat de la préfecture. On ira en Tunisie où le candidat à la présidentielle Nabil Karoui, libéré, démarre sa campagne. Et puis un prix Nobel au micro d'Europe 1, la première réaction de Peter Handke, Nobel de littérature récompensé aujourd'hui.
La tendance météo, Anissa.
C'est le grand retour du soleil demain qui nous annonce un très beau week-end et les températures dans le sud surtout seront estivales.
Europe 1.
L'intervention a commencé hier par des bombardements rendus possibles par le retrait des troupes américaines. La Turquie veut repousser loin de ses frontières les Kurdes qui ont pourtant contribué à éliminer Daesh dans le nord de la Syrie. Les condamnations de la communauté internationale se multiplient. Le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir ce soir avec la crainte notamment que Daesh ne profite de ce contexte pour regagner du terrain. Écoutez Emmanuel Macron.
Je condamne avec la plus grande fermeté l'offensive militaire unilatérale qui est en cours en Syrie. Et j'appelle la Turquie à y mettre un terme le plus rapidement possible. Aujourd'hui, la Turquie est en train d'oublier que la priorité de la communauté internationale en Syrie est la lutte contre Daesh et le terrorisme. Elle est en train de faire courir un risque humanitaire à des millions de personnes. Et ce risque, le risque d'aider Daesh à reconstruire un califat, et ce risque humanitaire, c'est la responsabilité seule que prend la Turquie devant le reste de la communauté internationale.
Emmanuel Macron, propos recueillis par Jean-Rémy Baudot.
Et le président de la République qui dit ne pas comprendre par ailleurs pourquoi les eurodéputés ont retoqué aujourd'hui sa candidate pour la Commission européenne, Sylvie Goulard.
Et c'est pourtant un scénario qui était craint avec les enquêtes sur les soupçons d'emploi fictif d'assistants parlementaires du Modem, affaire dans laquelle Sylvie Goulard a été entendue. Le président de la République voit, je cite, « peut-être de la petitesse dans le vote des eurodéputés ». C'est une claque, en tout cas pour la France, du jamais vu. Claudia Bertram, ça suscite beaucoup de réactions dans toute la classe politique.
Camoufler, humiliation, des termes qui reviennent dans les réactions de l'opposition à droite comme à gauche. Marine Le Pen parle d'un désaveu cinglant pour le président. Jean-Luc Mélenchon tweet lui, la France ridiculisée par les choix de Macron. Une claque savoureuse pour Florian Philippot, le président des Patriotes. Une gifle, estime quant à lui. Thierry Mariani, ancien LR, aujourd'hui eurodéputé RN. Il écrit, du jamais vu pour la France, terrible responsabilité de Macron dans cette déroute française. Pour Bruno Retailleau, le patron des Républicains au Sénat, Macron inflige à la France une terrible humiliation sur la scène européenne. Ils sont plusieurs aussi à dénoncer l'arrogance d'Emmanuel Macron, comme Yannick Jadot ou l'eurodéputé Raphaël Glucksmann, apparenté socialiste, qui regrette lui aussi un affaiblissement de la position française en Europe.
Claudia Bertram du service politique d'Europe 1.
Le ministre de l'Intérieur n'a pas fini de se défendre aujourd'hui. Il était entendu par les sénateurs.
Questionné par la commission des lois sur l'attentat de la préfecture Adrien Beck, il a notamment appelé à, je cite, « réarmer la société ».
Oui, avec ce constat du ministre, on a un temps de retard sur nos ennemis dans la lutte contre la radicalisation. Les mots sont forts, les esprits eux-mêmes ne sont pas prêts, semble dire Christophe Castaner. Un exemple qu'il prend, les moqueries qu'il a subies en début de semaine lorsqu'il a évoqué la nécessité de noter ces signes de radicalisation, comme le port de la barbe ou encore le refus de serrer la main aux femmes.
J'ai bien noté que à partir des signes que j'avais indiqués, certains ont glosé, ont même fait de l'humour. Je trouve ça méprisable.
Pour le reste, Christophe Castaner, qui sort d'une polémique après des propos jugés précipités le jour de l'attaque, eh bien Christophe Castaner se montre prudent face aux sénateurs. Au moment où je vous parle, répète régulièrement le ministre, jusqu'à une question d'un élu LR qui lui demande s'il peut communiquer aux sénateurs la fiche de poste de Michaël Harpon.
Je crois qu'on doit pouvoir, on va vérifier, vous communiquer la fiche de poste de l'auteur. On va vérifier. Voilà.
Elle est
classifiée.
Elle est forcément classifiée. Tout ce qui touche à l'organisation. Il y a l'enquête en cours. Mais tout ce qui touche à l'organisation des services de renseignement sont classifiés. Donc.
Le ministre interrompu par son secrétaire d'État, Laurent Nunez, Christophe Castaner, qui va maintenant poursuivre son marathon parlementaire avec une nouvelle audition la semaine prochaine devant cette fois la commission d'enquête de l'Assemblée nationale.
Adrien Beck du service politique et puis cette information ce soir, Adama Traoré, ce militant de Seine-Saint-Denis qui appelait à manifester pour, je cite, « rétablir la vérité sur l'assaillant de la préfecture » est sorti ce soir de garde à vue, information Europe 1 d'Alain Acco. Le parquet de Bobigny indique que l'enquête se poursuit, enquête qui a été élargie au chef d'apologie du terrorisme.
En Tunisie maintenant, le candidat à la présidentielle Nabil Karoui est sorti de prison hier soir, à quelques jours seulement du second tour.
Et il s'exprime ce soir pour la première fois au micro d'Europe 1, poursuivi pour fraude fiscale et blanchiment, il dénonce un emprisonnement politique.
Je suis heureux d'être ici libre. La Cour de cassation a prouvé qu'en fait mon arrestation a été illégale. Elle a été orchestrée par des partis politiques qui voulaient exactement arriver au résultat où c'était arrivé. Ils ne voulaient pas que je passe au deuxième tour.
Vous allez vous battre là d'ici le deuxième tour.
On va se bagarrer. Nous avons demandé le report parce qu'on trouve que c'est plus logique. Il n'y a pas eu de campagne. Sur quels critères les gens vont-ils aller voter? En fait, les critères aujourd'hui, c'est d'ici vous avez un mafieux, de l'autre vous avez un je ne sais pas quoi. Donc il n'y a aucune chose positive qui peut pousser les gens à les choisir en toute liberté.
Nabil Karoui au micro de Mathieu Bock, envoyé spécial d'Europe 1 à Tunis. Le second tour de la présidentielle est prévu dimanche. Un débat télévisé doit avoir lieu demain. Et puis en Allemagne, au lendemain de l'attaque d'une synagogue et d'un restaurant turc qui a fait deux morts, la chancelière Angela Merkel promet la tolérance zéro face à la haine. Le ministre de l'Intérieur évoque, je cite, une honte pour l'Allemagne. Il promet d'augmenter les effectifs des services de sécurité. Le tueur voulait commettre un massacre à la synagogue, estime le procureur fédéral. Enfin, je vous donne ces réquisitions au procès, vous savez, de ce commando de femmes qui avaient tenté un attentat près de Notre-Dame à Paris. Des peines de 25 et 30 ans de réclusion criminelle ont été requises aux assises contre deux des co-accusés.
Sébastien, deux lauréats pour le prix d'un. Deux prix Nobel de littérature ont été décernés aujourd'hui même.
Oui, il n'y en avait pas eu l'an dernier à cause d'un scandale lié au mouvement MeToo. Du coup, pour 2018, le comité récompense la Polonaise Olga Tokarczuk et pour 2019, l'Autrichien Peter Handke. Bonsoir Nicolas Caro.
Bonsoir Sébastien.
Il vit près de Paris, Peter Handke, et vous êtes allé sonner à sa porte aujourd'hui. Visiblement, il n'avait pas très envie de voir les journalistes.
Pas tellement. Peter Handke habite une jolie petite maison dans la forêt de Meudon. Il a quand même accepté d'ouvrir son jardin à une poignée de journalistes. Alors je l'ai félicité, bien sûr. Puis, question de base, dans ces cas-là, je lui ai demandé comment il se sentait. Sa réponse.
Qu'est-ce que vous devinez? Que vous êtes heureux? Ça se voit? Un peu. Un peu, c'est déjà ça, oui. Comme on dit en français, oui. Je suis ému, mais je ne peux pas le montrer devant vous. Là. Je vais montrer mon émotion devant une fourmi ou quelque chose, ou devant une noisette.
Devant une noisette. Ouais. Il avait vraiment envie d'être tranquille.
Il était un peu sonné en fait, et étonné. Il se croyait disqualifié d'office à cause de ses prises de position proserbes polémiques il y a quelques années. Il a reçu ce midi le coup de fil du secrétaire de l'Académie suédoise qui lui a annoncé la bonne nouvelle. Je lui ai demandé s'il avait répondu quelque chose à part merci.
Sûrement, oui, mais je ne me rappelle pas. Aussitôt, je suis allé dans la forêt, la forêt de Meudon.
Oui, il va quand même la quitter, sa forêt, pour aller chercher son prix.
Oui, ne serait-ce que par politesse, m'a-t-il dit, il se rendra à Stockholm, même s'il avait confié en 2014 que pour lui, le Nobel était une fausse canonisation sans grand intérêt.
Voilà, rencontre un peu surprenante.
Oui,
avec
exactement.
Un prix Nobel.
Ouais. Et demain, discret, prix Nobel de la paix, c'est avant 11h, aux alentours de 11h, hein, et c'est Greta Thunberg, la jeune suédoise de la lutte contre le changement climatique, qui est donnée favori. On verra donc verdict et on commentera ici même.
Merci Nicolas Caro. Je vous donne en un mot les nouveaux entrants au Wuzhou 2020, avec notamment Kylian Mbappé qui devient le plus jeune membre du Wuzhou à 21 ans. Antoine Griezmann fait aussi son entrée comme le chanteur Benjamin Biolay.
Sébastien, vous retrouve, vous n'êtes pas dans le Wuzhou, mais vous revenez
non,
quand
pas
même
pas
à 19h30.
Encore.
Bientôt. Allez, 19h30 ici même.
La météo avec Daniel Moquet. Allez, cours, terrasse, Daniel Moquet signe vos allées.
Anissa, la température augmente doucement mais sûrement demain.
Oui, effectivement Nathalie, et si les températures grimpent, c'est grâce au soleil. Nous atteignons même demain des valeurs estivales. Écoutez bien, dans le sud, 29 degrés à Mont-de-Marsan, on est au mois d'octobre, hein. 28 à Pau, 27 à Bordeaux, 26 à Toulouse et Clermont-Ferrand, 25 à Nîmes et Biarritz, 24 à Lyon. Et puis alors plus on monte, plus c'est frais, 21 degrés à Paris, 20 à Caen, La Rochelle et Besançon. Et seulement demain après-midi, 18 petits degrés à Metz et Lille. Vous l'avez compris, avec ces températures, c'est sur les deux tiers sud du pays que le temps sera le plus beau. De la région parisienne au bassin méditerranéen, de l'Alsace à la Côte d'Azur et des Pays de la Loire au Pays Basque, et bien dans toutes ces régions, le soleil brille dans un ciel sans nuages demain. Plus au nord, en Bretagne, sur les côtes de la Manche, dans le nord, la Normandie, là, le ciel est nuageux avec même quelques averses locales. Et puis attention, le vent souffle aussi dans ces secteurs, les côtes de la Manche, les côtes bretonnes, jusqu'à 70 km/h. Et dans le nord, demain, beaucoup de brume et de brouillard. Attention sur la route demain matin.
Europe 1.
Votre grand journal du soir, Nathalie Lé.
L'interview politique, c'est dans une seconde et David Doucan est là pour nous proposer son invité du jour. Bonsoir David.
Bonsoir Nathalie. Il fait partie des 82 députés européens qui ont dit non à Sylvie Goulard. Geoffroy Didier, le Républicain, est mon invité ce soir.
L'interview politique, c'est dans un instant dans votre grand journal du soir sur Europe 1, jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec l'interview politique Nathalie Lévy.
Et David Doucan, vous recevez à l'instant le député européen Les Républicains, Geoffroy Didier.
Bonsoir Geoffroy Didier.
Bonsoir.
Alors vous êtes l'un des 82 députés qui ont dit non à Sylvie Goulard tout à l'heure. Vous avez rejeté la candidature de la France. Pour la première fois, notre pays va devoir proposer un nouveau candidat. Est-ce que c'est pour vous un motif de satisfaction ?
Non, ce n'est pas un motif de satisfaction, c'est une réalité démocratique. Je précise que nous étions 82 sur seulement 112 à voter, c'est-à-dire sur l'ensemble de deux commissions seulement,
et
sur l'ensemble du Parlement
abstention.
Européen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu un vote transpartisan, démocratique, clairement en défaveur de la candidate française proposée par Emmanuel Macron. Il y a des procédures du Parlement européen, ce sont des procédures démocratiques. Je n'ai pas compris pourquoi Emmanuel Macron avait traité ce vote démocratique de petitesse, expliquant qu'en réalité, il ne comprenait pas pourquoi nous n'avions pas voté pour elle, alors qu'il existait des doutes importants, voire substantiels, sur l'intégrité et sur l'aptitude de Sylvie Goulard à incarner les intérêts de la France pour l'Europe.
Intégrité, probité, c'est bien les raisons pour lesquelles vous avez rejeté cette candidature. Il y a la présomption d'innocence.
Bien sûr.
Elle existe tout de même.
Mais bien sûr. Et j'y crois beaucoup. Et j'y crois d'autant plus que je suis moi-même avocat. Et je pense qu'il y a une présomption d'innocence qui est sacrée. Je dis juste qu'Emmanuel Macron a pris un risque en présentant un profil qui était considéré comme contestable par un grand nombre de groupes politiques.
Mais c'est de la politique ou du principe? Vous êtes surtout sur le plan politique ou sur le plan des principes?
Justement.
Elle n'est même pas mise en examen, Sylvie
Goulard.
J'irai même plus loin que vous.
Je considère qu'être mise en examen ne vaut pas condamnation et qu'on est innocent tant qu'on n'a pas été condamné de manière définitive.
Alors pourquoi avoir rejeté cette candidature?
Mais ce n'est pas pour ça que je l'ai rejetée pour ma part.
Alors
expliquez-nous. Je l'ai rejetée pour une autre raison. C'est que lorsqu'elle était députée européenne, Sylvie Goulard a accepté d'être, certes, de représenter des intérêts européens en tant qu'élue européenne, mais aussi de représenter des intérêts américains, en étant même rémunérée par un think tank américain, avec une rémunération américaine deux fois supérieure à celle européenne. Et donc c'est ce risque de conflit d'intérêts, de confusion d'intérêts, qui a convaincu un grand nombre de députés de la rejeter aujourd'hui.
Alors, revenons à la réaction d'Emmanuel Macron, parce qu'on avait rarement vu le président de la République aussi furieux dans son intervention depuis Lyon. Et il nous a raconté les coulisses de cette décision, de ce choix de présenter Sylvie Goulard. Pour lui, il avait proposé trois personnes à Ursula von der Leyen et la présidente de la Commission européenne avait choisi Sylvie Goulard en lui promettant que les patrons des groupes parlementaires auxquels vous appartenez étaient OK. Donc le président nous dit il y a eu un jeu politique, il y a eu des renoncements, de la petitesse.
Chacun doit faire face à ses responsabilités. Ça, c'est l'histoire qu'on raconte aux enfants. La vérité, c'est que le choix numéro un d'Emmanuel Macron était Sylvie Goulard et que ça s'est avéré un mauvais choix.
Donc il nous a menti,
en tout cas, je vous donne un fait établi, c'est que le seul nom qui ait été proposé au Parlement européen pour consultation, pour vérification et pour approbation, c'est celui de Sylvie Goulard.
Oui, mais il raconte que c'était en fait le choix d'Ursula von der Leyen et qu'elle l'avait assuré qu'il y aurait un accord des parlementaires. Est-ce que c'est un mensonge?
C'est faux. Parce que, en tant que député européen, je suis formel, jamais nous n'avons eu d'autre nom officiel au nom de la France que celui de Sylvie Goulard. Je crois qu'il va falloir que Emmanuel Macron apprenne la démocratie, apprenne qu'il peut subir des revers, apprenne les procédures du Parlement européen. J'ai été vraiment stupéfait par la réaction de la ministre des Affaires européennes, Amélie de Montchalin, qui, alors même que nous n'avions que posé des questions à Sylvie Goulard, comme le veut la procédure, a considéré que poser des questions, c'était d'être d'extrême droite. Je suis désolé, mais dans une démocratie moderne, les élus que nous sommes contrôlent ceux qui sont nommés. C'est plutôt une bonne nouvelle, mais certes, c'en est pour aujourd'hui, une mauvaise pour Sylvie Goulard, dont acte.
Alors, les groupes politiques au Parlement européen ont jugé aussi que les attributions, le portefeuille, comme on dit, qui était destiné à Sylvie Goulard, était trop important, trop vaste. On lui confiait trop de responsabilités, un budget trop important aussi. Est-ce que vous pensez que pour le prochain candidat de la France, il faudra peut-être redistribuer, avoir un portefeuille plus petit?
Je le crois, parce que dans son tropisme hégémonique, Emmanuel Macron a voulu un portefeuille immense, à tel point que, même sur le fond, beaucoup de députés européens ont considéré que Sylvie Goulard n'était pas prête pour occuper un tel poste. Un poste qui concerne le marché intérieur, la stratégie industrielle, l'audiovisuel, l'espace, la défense. Bref, c'est cette arrogance française en Europe, incarnée par Emmanuel Macron dans son choix de Sylvie Goulard, dans sa volonté d'imposer un portefeuille trop large pour les épaules de Sylvie Goulard qui est aujourd'hui sanctionné.
Est-ce que, aujourd'hui, vous affaiblissez Emmanuel Macron ou la France ?
Ah non, je pense que nous n'affaiblissons personne, mais que c'est justement, malheureusement, Emmanuel Macron qui a affaibli la France en faisant le choix de proposer au nom de la France quelqu'un dont on savait que le profil était contesté et contestable.
Alors j'en viens à quelqu'un d'autre qui fait son retour aujourd'hui. Alors lui, il est mis en examen, en revanche, contrairement à Sylvie Goulard. C'est François Fillon. François Fillon, il est même renvoyé en correctionnel. François Fillon, qui s'est exprimé à la télévision suisse et qui a déclaré « Macron est un petit joueur ». Pourquoi dit-il ça ? Parce que selon lui, il a cédé face aux Gilets jaunes, alors que lui, François Fillon, en 2003, lorsqu'il avait fait la réforme des retraites, dit-il, j'ai mis 2 500 000 personnes dans la rue et lui, il a cédé devant les Gilets jaunes. C'est un petit joueur. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration ?
Je ne qualifierai pas le président de petit joueur parce que ce ne sont pas mes mots. En revanche, il y a un message subliminal derrière que je perçois, qui est celui qui consiste à ce que la droite doit tenir des réformes jusqu'au bout et ne pas faire semblant. Et qu'Emmanuel Macron, on le voit aujourd'hui sur les retraites où il recule déjà et sur bien d'autres aspects, est très fort en communication, mais les actes derrière sont faibles. Et d'ailleurs, vous obtiendrez aussi le fait, vous admettrez aussi que justement, nous n'obtenons pas beaucoup de résultats.
Mais je n'admets
donc,
rien du
oui,
tout.
Si nous, la droite républicaine veut se retrouver un espace d'ici à 2022, elle va devoir produire des idées nouvelles et surtout s'engager à les tenir sur le fond, concrètement sur le terrain, parce qu'au fond, Emmanuel Macron n'est pas vraiment le réformateur qu'il prétend.
Il n'a rien réformé, Emmanuel Macron, depuis 2017.
Si,
le droit du travail, l'ISF, la SNCF. Et là, sur les retraites, vous dites qu'il a déjà renoncé, mais une discussion est en cours, Jean-Paul Delevoye.
Oui, une longue discussion, de grands débats. Il est le roi de la discussion et de la communication. Ça, il sait faire à merveille comme personne. En revanche, sur les actes, c'est souvent décevant. En revanche, moi je vous le dis parce que je ne suis pas sectaire, lorsqu'il va dans le bon sens, comme il l'a fait par exemple sur la SNCF, ou en commençant à réformer le droit du travail, j'étais le premier à applaudir.
Un dernier mot, vous élisez ce week-end votre nouveau président, les Républicains. Vous soutenez Christian Jacob, je pense. Oui. Christian Jacob, c'est l'homme qui peut sauver la droite ?
Je ne crois pas qu'il prétende sauver la droite. En revanche, il aura un mérite s'il est élu, et surtout s'il est élu dès le premier tour avec une vraie légitimité, c'est qu'il remettra tout le monde autour de la table. C'est-à-dire ceux qui se sont éloignés des Républicains, je pense à Valérie Pécresse, à Xavier Bertrand, on a besoin de rassembler et surtout de ne pas faire preuve de sectarisme. Parce que moi, je ne veux pas d'une droite étriquée. Je ne veux pas d'une droite qui cède au rigorisme moral ou à l'ultralibéralisme ou à cet ultra-conservatrisme sociétal. Et j'ai l'assurance de Christian Jacob qu'il saura entendre tout le monde, dont cette droite qui sait aussi accompagner les évolutions de la société.
Geoffroy Didier, député européen Les Républicains, merci d'avoir répondu
merci
à mon invitation.
Merci David Ducamp.
Europe 1. La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy. À 19h30, restez avec nous, on va parler d'un livre fort intéressant, vous allez voir, qui met en lumière des initiatives pour rapprocher les générations, comment insérer au mieux nos aînés. Je vous attends au 39-21. Et puis, tout à fait autre chose, un nouveau spectacle samedi au Cirque d'Hiver. Je recevrai le directeur Francesco Buglione, vous l'avez compris, on va parler du Cirque Buglione, une institution.
Nathalie Lévy, jusqu'à 20h sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, c'est avec vous Nathalie Lévy.
Et tous les soirs, on va au plus près de vous. Direction ce soir Marseille avec vous, Nathalie Chevance. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors direction Toulon précisément, nous fêterons les 20 ans du sanctuaire Pélagos. C'est un espace de protection de 87 000 m² en haute mer pour les mammifères marins situé entre la France, Monaco et l'Italie. Il y a 20 ans, c'était tout le premier espace au monde dédié au développement et à l'habitat des baleines et autres dauphins.
Eh bien d'abord, il y a une meilleure connaissance de ces animaux et de leur environnement, une meilleure sensibilisation aussi auprès des communes, des touristes, dans cette zone surfréquentée, riche de 8500 espèces. Et plusieurs mesures très concrètes ont été prises, par exemple pour les navires, comme les bateaux de croisière, désormais équipés de systèmes anti-collision pour éviter les cétacés, car il y a dans le sanctuaire des cachalots, des rorquals communs de plus de 25 mètres quand même, et ils sont des centaines. Il y a également 5 espèces de dauphins différentes, le grand dauphin, le bleu et blanc, ils sont plusieurs dizaines de milliers. Mais Pélagos a permis aussi de pointer le fléau de la pollution des plastiques, comme explique Alain Barcelot, responsable de Pélagos pour la partie française.
Les mammifères marins de Méditerranée sont plus sujets aux polluants que ceux de leur homologue de l'Atlantique. Et ça, aujourd'hui, on peut le mesurer et on a des seuils de polluants très graves, notamment qui peuvent poser des problèmes en termes de fertilité des animaux ou en termes d'aggravation des maladies. Ce sont des animaux qui peuvent être susceptibles d'être plus fragilisés par ces polluants. Et ces polluants, on va les retrouver notamment au travers des plastiques. Et les mammifères marins étant en bout de chaîne alimentaire sont de ce fait vraiment sujets à ces polluants.
Alors justement Nathalie, quel est le message des équipes Pélagos pour l'avenir pour mieux protéger les cétacés ?
Eh bien déjà, d'arrêter de jeter du plastique et pas uniquement le long des côtes. C'est valable aussi, par exemple, lorsqu'on habite dans les Alpes, parce que les déchets se retrouvent dans les fleuves qui se jettent à la mer. Choisir aussi un opérateur labellisé si vous voulez vous offrir une sortie en bateau pour observer les dauphins, pour ne pas les perturber. En fait, Pélagos a l'ambition de porter un modèle vertueux. Et d'ailleurs, depuis sa création, il y a 20 ans, d'autres sanctuaires pour les cétacés se sont créés sur le même modèle.
Merci beaucoup Nathalie Chevance depuis Marseille pour Europe 1. 19h26, la suite de votre grand journal du soir. Nathalie Lévy. L'actualité dans le monde demain, c'est tous les soirs. Demain sera remis le prix Nobel de la paix. Pauline Jacob, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, qui sera cette fois l'élu, ou elle, ou lui, en tout cas, et succédera au gynécologue congolais Denis Mukwege et à l'activiste yézidi Mourad, symbole de la lutte contre les violences sexuelles. Le comité Nobel norvégien va devoir choisir parmi 223 personnes, 78 organisations. Bon alors, les favoris, allons-y.
Eh bien écoutez, on parle beaucoup de Greta Thunberg. Les bookmakers y croient, c'est crédible. La jeune égérie suédoise, grande favorite, inconnue il y a un an, elle est aujourd'hui ce visage de la lutte pour le climat, ce réveil des consciences. Et quel look, elle souffle, ce réveil va-t-il lui valoir le Nobel? Les experts n'y croient pas trop. Trop jeune, discours trop radical, mais... À moins que ce prix soit partagé, un ou une deuxième gagnante à ses côtés peut-être. C'est en tout cas une candidate sérieuse.
Bon, alors les experts, pas fans de Greta Thunberg, on l'a compris. En revanche, ils ont un favori, il s'appelle Abiy Ahmed.
Et oui, c'est le premier ministre de l'Éthiopie. C'est lui qui a beaucoup œuvré pour la fin de la guerre avec l'Érythrée. Les spécialistes le disent, son mandat est un succès. Il est arrivé au pouvoir en avril 2018. Il a depuis libéré les prisonniers politiques, entamé un processus de paix avec les rebelles à 43 ans, selon certains. Il a le profil parfait du prix Nobel. Alors, autre nom cité, il y en a, le chef indien Rahoni, oui. Évidemment, et la première ministre néo-zélandaise pour sa lutte contre les contenus en ligne à caractère terroriste.
Et puis Pauline, à chaque compétition, c'est outsiders.
Voilà,
hein,
alors, on en arrive aux autres, ceux qui y croient. Mais bon, alors, oui, il a un titre qui en impose, un pouvoir certain, mais lui, bizarrement, ce n'est pas le chouchou des bookmakers. Qui est notre outsider mystère? Je vous donne tout de suite un indice sonore.
Je pourrais obtenir le prix Nobel de la paix pour beaucoup de choses s'il attribuait de manière honnête, mais ce n'est pas le cas. Ils l'ont donné à Obama immédiatement après son arrivée au pouvoir et lui-même ne comprenait pas pourquoi. Et vous savez quoi? C'est une des rares choses sur laquelle j'étais d'accord avec lui.
Voilà, vous l'avez reconnu. Donald Trump, ça pourrait faire grincer quelques dents, dont celle par exemple de Megan Rapinoe. Vous savez, la star de l'équipe américaine de foot. Elle est citée, parfois elle aussi, aux côtés de son épouvantail politique, Donald Trump, donc comme potentiel prix Nobel de la paix.
Vous vous lancez ou pas, Pauline?
Non, je me réserve pour l'année prochaine.
Passez votre tour. Bon, verdict demain 11h en tout
verdict
cas.
Demain 11h.
Merci à vous.
Europe 1.
À suivre dans votre grand journal du soir, Nathalie Lévy. Le rappel des titres dans moins d'une minute et juste après, on va parler de nos aînés, comment rapprocher les générations. Sujet essentiel, bien sûr, dans une France qui vieillit. On va vous donner pas mal d'idées, vous verrez. On vous attend aussi au 39-21.
Et votre grand journal du soir se poursuit jusqu'à 20h.
Il est 19h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy. Avec le rappel des titres de Sébastien Krebs.
L'Élysée sonné, Emmanuel Macron dit avoir besoin de comprendre après le vote des eurodéputés qui ont retoqué la candidate présentée par la France pour la Commission européenne, Sylvie Goulard, écartée à cause des enquêtes qui visent le Modem. Des perquisitions menées à Rouen, au siège de Lubrizol et sur le site voisin de Normandie Logistique, évoqué comme potentiel point de départ de l'incendie. Hypothèse démentie par ses dirigeants aujourd'hui. Les ouvriers de Michelin le craignent. C'est confirmé, le site de La Roche-sur-Yon va fermer, 619 emplois supprimés. Dans l'actualité également ce soir, les 14 milliards de dollars récoltés pour le Fonds mondial contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Engagement de donateurs privés et publics réunis à Lyon. On retient aussi ce soir cette petite phrase de François Fillon. Emmanuel Macron est un petit joueur, dit-il à la télévision suisse, d'un air amusé en comparant les gilets jaunes aux 2,5 millions de personnes que lui avait mis dans la rue pour sa réforme des retraites en 2003. Et puis au Japon, après l'annulation de deux matchs au Mondial de rugby, dont Angleterre-France, le typhon menace désormais le Grand Prix de Formule 1 qui est prévu dimanche sur le circuit de Tsukuba.
On a tout, merci Sébastien.
À
vous
demain.
Revenez demain à 18h évidemment en direct. Anissa, quel temps pour demain?
Demain, des bonnes nouvelles.
Bien, bien, bien.
C'est un très beau week-end qui arrive. Alors attention quand même, demain au nord de la Seine,
Des brumes et des brouillards assez épais. Demain matin, ils seront bas, ces brouillards. Prudence si vous devez prendre la route tôt demain matin. Au fil des heures, ces brouillards vont devenir des nuages assez épais qui pourront apporter quelques gouttes sur la Normandie et la Bretagne. Sur les deux tiers sud, c'est-à-dire au sud de la Seine demain, au sud de la Loire et de la Seine, des pays de la Loire au Pays Basque, de l'Île-de-France jusqu'au bassin méditerranéen et de l'Alsace à la Côte d'Azur, eh bien là, c'est grand soleil pour tout le monde dans un ciel bleu sans nuages. Les températures, 18 à 29 demain après-midi, 25 à 29 degrés. Au sud, il fera 29 degrés à Mont-de-Marsan demain après-midi et 21 à Paris.
Europe 1.
Votre grand journal du soir se poursuit, Nathalie Lévy, et vous recevez l'un des auteurs du livre Odyssée. Il vient de sortir aux éditions du Seuil et il pose la question cruciale de la place de nos aînés dans la société.
Et oui, quelle place pour nos aînés, comment rapprocher les générations? Deux journalistes ont fait le tour du monde avec plein d'initiatives originales et touchantes. Ça s'appelle donc Odyssée, c'est aux éditions du Seuil. On en parle dans un instant. Ah bah tout de suite même, allez, c'est encore mieux, parce que Clément Boxebeld est déjà dans ce studio. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Bienvenue.
Nathalie.
Vous avez coécrit avec Julia Moury hein, ce livre donc aux éditions du Seuil. Je me demandais, comment, à votre âge, parce que quel âge avez-vous?
J'ai 29 ans.
À 29 ans, comment l'idée vient de se pencher sur nos seniors, sur nos aînés, sur cette tranche d'âge? Comment vous avez eu envie d'écrire ce projet?
Ben, à notre âge, on a eu la chance de connaître nos grands-parents sur 20-25 ans. Donc nous, avec Julia, on avait créé un lien très complice avec nos grands-parents. Julia, ses grands-parents, c'était de sacrés personnages avec beaucoup d'humour. Et moi, ma grand-mère était atteinte d'Alzheimer à la fin de sa vie. Et c'est un épisode qui m'a beaucoup marqué parce que malgré la maladie, j'ai réussi à créer un lien très fort. Je voyais de la poésie dans sa maladie et je voulais montrer que c'est un lien qui peut aussi enrichir les autres générations. Et donc, on a décidé d'écrire ce livre parce qu'on trouvait que notre vision de la vieillesse, elle était en décalage avec la vision ambiante qu'on a, qui est plutôt négative. On voit le vieillissement comme un problème. On a décidé de partir dans le monde.
C'est ça.
Pour voir d'autres expériences et voir comment on vieillit dans d'autres cultures.
Vous êtes parti combien de temps, d'ailleurs, pour
on
proposer
est
cette...
Un an.
Alors, du coup, vous rencontrez des personnes âgées, des... vieux, parce que vous n'hésitez pas, et c'est ça qui est intéressant, à employer ce mot. Vous avez eu envie de le réhabiliter, en quelque sorte.
C'est ça. Parce que derrière le mot vieux, qu'est-ce qu'on associe? C'est souvent vécu comme une insulte. Quand on l'utilise, on nous dit, mais pourquoi vous utilisez ce mot-là? Nous, on dit qu'il n'a rien de péjoratif. Qu'est-ce qu'on associe? On associe du déclin, de la dépendance, on associe beaucoup de choses négatives. Et nous, on voulait montrer que le mot vieux, c'est comme le mot jeune, en fait. Pourquoi on associerait au mot jeune l'innovation, le progrès, le dynamisme, et on ne mettrait pas ça aussi derrière le mot vieux? Donc on a voulu aller voir plein de vieux à travers le monde qui cassent les idées reçues qu'on a sur la vieillesse, et puis montrer aussi des pistes d'action concrètes, des initiatives qui rapprochent les générations.
Alors on va y venir justement, vous avez vécu des moments incroyables, des moments drôles, des moments touchants, des initiatives, vous l'avez dit. On va aller dans ce club de boxe d'abord, on va s'y arrêter quelques instants. Un club de boxe en Afrique du Sud, dans la banlieue de Johannesburg, réservé à qui? Eh bien, aux grands-mères.
Je m'appelle Constance, j'ai 80 ans. J'avais de l'hypertension avant, j'allais à la clinique. Mais quand j'ai commencé à boxer, mon hypertension est redescendue. Je me sens forte quand je boxe, je me sens jeune. Si quelqu'un force la porte de ma maison, je le sortirai à coups de poing.
C'est Constance, âgée de 80 ans. Elle pratique la boxe et depuis, les problèmes de stress et d'hypertension, hop, ils se sont envolés. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, Clément, quand vous avez vu ces grands-mères de 80 ans boxer avec entrain à Johannesburg?
J'ai ressenti beaucoup de joie, beaucoup de surprise aussi. Nous-mêmes, on a essayé les exercices qu'elles faisaient au bout de 5 minutes. On était complètement essoufflés. Et elles, ça faisait 2 heures qu'elles faisaient ça. Et j'ai ressenti aussi vraiment le rôle de pilier que peuvent vivre le rôle de grand-mère au Sénégal. C'est dans des quartiers pauvres de Johannesburg où elles s'entraînent. Elles font 2 heures à pied aller-retour pour s'entraîner. C'est un véritable exutoire. Et elles ont un rôle de pilier parce que la génération d'en dessous, 25% sont morts du sida. Elles ont des petits-enfants à charge. Donc pour elles, c'est vraiment... on sent que c'est l'envie de se défouler. Et puis ça leur permet à 80 ans d'avoir le sourire. Et d'être en pleine
forme. De rester animée, vivante, souriante, avoir aussi, comme ça, une espèce de sens, de donner un sens à leur vie. Mmh. On va se repencher sur votre tour du monde dans un instant, et puis sur la situation de nos aînés en France.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy. Nathalie, vous recevez ce soir l'un des auteurs du livre Odyssée. C'est un livre qui vient de sortir aux éditions du Seuil et qui pose la question cruciale de la place de nos aînés à travers le monde.
Oui, c'est ça, ce tour du monde de la vieillesse avec votre co-auteur Julia Maury. Oui, c'est ça, Julia Maury. J'arrivais pas à me relire, vous voyez. Clément, j'aimerais bien qu'on retourne un peu comme ça au hasard des rencontres que vous avez effectuées dans le monde et qu'on s'arrête un instant à Hong Kong, un restaurant qui n'emploie depuis 2005 que des seniors à la retraite. Allons-y, écoutons et on commente après.
Il y a 50 seniors qui travaillent ici au restaurant. Ils ne viennent pas tous du milieu de la restauration. Beaucoup d'entre eux étaient dans la comptabilité ou le management. Le personnel senior, grâce à leur expérience, ils savent comment traiter la clientèle. C'est pas quelque chose qu'on a besoin de leur apprendre.
Ce qu'il faut savoir, qu'à Hong Kong, la retraite est souvent insuffisante hein, pour vivre correctement. Donc les retraités bossent.
Voilà. C'est un pays très inégalitaire alors que c'est un pays très développé. Donc on se rend compte qu'en France, on a quand même la chance d'avoir encore un modèle social qu'il faut garder. Ils bossent dans des conditions décentes quand même grâce à des initiatives comme Viet Street avec un salaire correct. Et puis comme le dit dans l'extrait le fondateur du restaurant, c'est aussi des personnes qui apportent un plus parce qu'elles ont de vraies qualités relationnelles et c'est un plus pour,
c'est le lien
pour
social.
Les clients.
C'est le lien social.
C'est ça. Ouais. Ils ont une capacité à créer du lien social, à être disponibles. Mmh. C'est ce qu'on raconte dans notre livre.
C'est ça. Quand vous regardez le tour du monde que vous avez effectué, vous vous dites que dans un certain nombre de pays, comme ça, on voit ces aînés à la fois impliqués dans la société, à la fois engagés, à la fois actifs. Il y a de gros écarts selon les continents.
Oui, alors il y a des différences. Nous, on est allé voir des pays où la transition démographique est très avancée, comme le Japon, les États-Unis, le Canada. Mais on parle aussi dans notre livre de pays où la transition démographique en est à ses débuts, comme le Sénégal, la Colombie, et qui vont connaître en 20 ans ce qu'on a connu en 100 ans, en termes d'allongement de la durée de la vie, de la proportion des personnes âgées. Et dans ces pays-là, la différence, c'est que la prise en charge est encore beaucoup dans la communauté, les liens de proximité, la solidarité familiale. Et on sent que le rôle social, par exemple, au Sénégal, est encore très développé. Par exemple, il y a des grands-mères au Sénégal qui se mobilisent contre les mariages forcés, les grossesses adolescentes
l'excision.
Et c'est
ça, c'est fou, parce que
c'est
vraiment... Là, c'est sur le plan moral, sur le plan, effectivement, de l'engagement sociétal.
C'est ça.
Et elles ont cette capacité, elles ont cette fougue encore.
C'est ça, cette fougue, et puis surtout cette
influence. Cette croyance et cette influence.
Elles sont écoutées dans les familles, par les pères de famille, elles peuvent faire changer ces décisions-là, un mariage. Et on voit jusqu'où peut aller le rôle des personnes âgées. Donc en France, c'est très inspirant. On se dit que les personnes âgées, finalement, les retraités peuvent être des moteurs du changement et peuvent faire partie de l'avenir. Alors que... On pense souvent qu'ils font partie d'un autre monde plus ancien.
Ouais. On va encore écouter dans un extrait dans un petit instant. Clément, où est-ce qu'on traite le mieux nos vieux ? Je me permets d'employer ce mot parce que vous avez décidé de le réhabiliter. Hein.
Oui, alors nous, on ne dit pas nos vieux, on dit plutôt les vieux parce qu'ils ne nous appartiennent pas. Et c'est pas des personnes qui ont besoin d'assistance. Enfin, uniquement, on ne peut pas résumer à la vieillesse à la dépendance. Nous, on n'a vu que des choses très positives dans tous les pays. Donc, c'est difficile de dire un pays est meilleur que l'autre. Bon, on voit que le Japon quand même a beaucoup investi institutionnellement et on voit des lieux de vie au Japon merveilleux qui sont médicalisés mais à petite échelle où le système s'adapte à la personne plutôt que la personne doit s'adapter à un système. Donc je dirais le Japon c'est un très beau pays où il y a beaucoup de choses très intéressantes.
On aurait tendance à penser, j'allais dire spontanément, que c'est en Afrique du Nord, dans tout le bassin méditerranéen, que les aînés sont peut-être les plus considérés parce qu'on vit beaucoup en fratrie, en famille aussi, on les garde beaucoup à la maison. C'est le cas ou c'est une légende ? Enfin, une légende mais peut-être plus d'actualité en tout cas.
Oui voilà, alors dans les discours c'est encore très présent dans la culture. Après ces pays-là connaissent un peu les mêmes phénomènes qui font que chez nous peut-être les liens se sont distendus. Donc je parle de l'exode rural, par exemple, le fait que les jeunes vont travailler en ville et que les personnes âgées restent à la campagne. Et dans notre livre, on raconte aussi notre rencontre avec un gérontologue, par exemple, sénégalais, qui nous explique ça, qui dit, voilà, les jeunes partent en ville, vivre dans des HLM, mais il n'y a plus la place pour faire vivre toutes les générations sous un même toit. Et ils ont besoin aussi de solutions, comme on a pu les développer chez nous.
Une dernière question, Clément. D'après tout ce que vous avez vu là, avec votre tour du monde, en quelque sorte... Les aînés, nos aînés en France, comment s'en sortent-ils ?
Alors,
parce que c'est vraiment le sujet aussi du moment. On a vu aussi qu'il fallait accompagner les aidants parce que dans le cas des aînés, ça, c'est important aussi. Nos aînés, ils sont considérés, ils s'en sortent comment ?
Bah, je pense qu'en France, on a quand même un bon modèle social. Donc, comme on a vu à Hong Kong, c'est pas pareil. En Inde, il n'y a pas du tout de système de santé. Donc ça, c'est quand même des choses très positives à relever quand on a voyagé dans le monde. Là où on peut encore faire des progrès, c'est dans l'inclusion sociale et dans le regard qu'on porte sur l'âge en France. Et là, il y a des progrès à faire. Et je pense que c'est en racontant de belles histoires concrètes, comme on l'a fait en racontant ce qui se passe dans d'autres cultures, qu'on peut faire changer les choses. Et nous, on veut donner envie à des jeunes comme nous, de donner du sens à leur travail en s'impliquant dans cette transition démographique qui est un des grands enjeux de notre société. On a envie d'aider aussi les aidants, qui sont plutôt des personnes qui ont entre 50 et 70 ans, et des personnes âgées en perte d'autonomie dans leur famille, en donnant des solutions, des outils, des méthodes.
Ouais. Merci beaucoup, en tout cas, c'est très intéressant. C'est un beau livre, c'est un bel hommage. C'est Julia Mouret et Clément Boxebeld qui signent Odyssée aux éditions du Seuil. Jean-Paul nous contactait depuis la Bourgogne. Jean-Paul, merci à vous. Vous disiez c'est difficile de vieillir aujourd'hui car la technologie évolue très rapidement et la société de consommation ne se préoccupe pas des vieux. Les retraites sont également de plus en plus restreintes. Il faut savoir profiter de son repos tout en restant actif, passionné et avide de découvertes. Je suis illustrateur et continue de vibrer grâce au dessin et à la musique. On salue Jean-Paul, on adore son message et voilà, il a tout compris. Merci beaucoup Jean-Paul et merci à vous Clément Boxebeld.
Merci beaucoup.
Europe 1. Votre grand journal du soir se poursuit dans un instant avec vous Nathalie Lévy.
Et je vous emmène au cirque, figurez-vous. Le cirque Bouglione, nouveau spectacle qui débute samedi au cirque d'hiver à Paris. Je reçois Francesco Bouglione, le boss de ce cirque historique.
Nathalie Lévy, jusqu'à 20h sur Europe 1. Votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1. Place à la culture. Dans un instant, nous allons découvrir le nouveau spectacle du Cirque Bouglione. Mais tout de suite, c'est la playlist du 18-20. Qu'est-ce qu'on s'écoute ce soir, Nathalie ?
Une des révélations françaises, Marie-Flore. Tout ou rien. C'est parti.
Tout de c'était rien, non. C'était juste assez pour se faire plus de mal que de bien. Nous de c'était rien. Nous de c'était rien.
Folk et pop électro, Marie-Flore qui dévoile son tout premier album de chansons en français Braquage, ça sort le 18 octobre prochain.
Et prochain titre demain dans la playlist du 18-20. La culture au sens large c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. Nathalie Lévy, ce soir on parle d'un cirque mythique, le cirque Bouglione, ouais, nouveau oui. spectacle qui débute ce samedi au cirque d'hiver.
Place, hein.
C'est à Paris.
Il reste quelques places.
C'est vrai. Bon, eh ben merci beaucoup à vous d'être ici, Francesco Bouglione. Il me reste une petite place, vous me dites ?
Oui.
Bon, d'accord, alors ça va. C'est parti, effectivement, du 12 octobre au 15 mars. Votre cirque a plus de 70 ans, ça se fête évidemment. Ça vous fait quoi de présenter ce spectacle sans votre papa, sans votre père ?
Alors, c'est vrai que c'est une année un peu assez compliquée parce que l'année dernière, bah, ma grand-mère qui nous a quittés à l'âge de 106 ans.
Ouais, magnifique.
Et mon père, ben malheureusement, nous a quittés aussi cette année. Donc c'est vrai, vous savez, la famille Bouglione, ça fait plus de 70 ans qu'on est au cirque d'hiver. On est arrivé en 1934. Depuis, ben, chaque année, ils étaient là
bien sûr.
Pour les spectacles. Donc c'est vrai que ça a un goût, pour moi, je dirais un peu amer. Mais le spectacle, ben, comme on dit, hein, le spectacle continue.
C'est ça.
Et ben, le cirque d'hiver, c'est un lieu mythique pour les Parisiens. Pratiquement tous les Parisiens ont été au cirque d'hiver. C'est une des plus anciennes salles de Paris. Après, la plus ancienne, c'est la Comédie-Française. Après, c'est le cirque d'hiver. Donc, les plus grands y sont passés. Les plus grands continuent à y passer. Donc, c'est vraiment un endroit dans le cœur des Parisiens et dans le cœur de la famille.
Bien sûr, c'est
vraiment notre maison.
Bon, alors, vous êtes vraiment le directeur du cirque. Comment vous envisagez donc ce nouveau spectacle ? Il fallait le placer sous le signe du renouveau ?
Alors, sous le signe du renouveau, vous savez, on a une clientèle qui est très fidèle au cirque d'hiver, qui vient même des fois, deux fois dans une saison, revoir le spectacle. Donc, ben, plus on a une clientèle qui est fidèle, plus elle
plus
est difficile.
Plus il faut se renouveler.
Plus il faut se renouveler.
C'est ça.
Donc, tous les ans, c'est vraiment d'emmener ben, les plus grands talents qui viennent du monde entier, parce que les artistes viennent du monde entier. Il y a 17 nationalités. Le cirque est universel. Le cirque n'a pas de langage. Donc c'est une chance et c'est une force. C'est pour ça qu'il y a tous ces artistes qui viennent. Il y en a qui viennent des États-Unis, il y a l'Amérique du Sud, il y a la Russie, l'Ukraine. C'est vraiment ce mélange qui fait que c'est un spectacle qui est riche, qui est culturel, pour moi, c'est un des plus beaux spectacles vivants.
Ouais, hein. Ouais. Alors, évidemment, c'est un des plus beaux spectacles vivants, cela va de soi. Il y a quand même une toute petite ombre au tableau. Il y aura dans votre spectacle des chameaux, des chiens, des chats. Pourquoi est-ce que vous continuez à présenter ces numéros qui dérangent comme ça avec certains animaux? Ça déplaît à beaucoup.
Alors, ça dérange. Non, ça ne déplaît pas à beaucoup.
Ça dérange.
Non, ça dérange. Il faut.
Il y a quand même de nombreux pays qui interdisent aujourd'hui les cirques avec animaux sauvages.
Alors, non, il y a très peu de pays qui interdisent les cirques avec animaux sauvages. Il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on nous dit. Mmh. Il y a certains pays où il y a des interdictions, très peu. Il y a certains pays qui ont interdit.
L'Autriche, la Belgique, la Grèce, l'Inde, l'Irlande, l'Italie, le Liban, et je peux en citer d'autres. Et puis en France,
alors,
il y a quand même.
Pays... Alors attendez, je vais y venir. Dans la majorité, c'est des interdictions pour travailler avec des animaux qui ont été privés dans le milieu naturel.
D'accord.
Il faut savoir qu'il y a plus de 40 ans qu'il n'y a plus d'animaux sauvages qui sont prélevés dans le milieu naturel. La présence des animaux ne dérange pas. En France, les lois sont drastiques. Il n'y a pas tant que ça d'animaux sauvages qui sont... maintenant, ils ont tous ces animaux viennent d'élevages que nous avons entre cirque, entre zoo. Donc non, les animaux sauvages ne dérangent pas. La loi est très stricte. On ne peut pas détenir des animaux sauvages n'importe où. Nous avons des contrôles vétérinaires chaque semaine. Donc non, et ces associations qui font croire que les animaux sont maltraités, non, les animaux ne sont pas maltraités dans les cirques. Il y a beaucoup plus d'enfants maltraités en France que d'animaux.
Ils font vraiment partie de la famille Bouglione, c'est ça ?
Ils font partie de la famille Bouglione, comme dans les autres cirques. Bartaba, Zingaro, ils utilisent des chevaux, nous on utilise des chevaux. Je ne vois pas la différence entre nous et Zingaro. Il n'y a aucune différence. On travaille tous les deux avec des animaux. Ce sont pour les deux... ce sont des artistes à part entière. Ouais. Et c'est la même chose dans les autres cirques.
Bon, alors, ce spectacle, c'est un lancement, puisque c'est une nouvelle mouture, cette fois-ci.
C'est une nouvelle mouture.
Hein, c'est ça.
Où il n'y a pas d'animaux sauvages, cette année.
Comment est-ce qu'on s'habitue aux frissons, comme ça, du lancement d'un nouveau show?
Non, on ne s'y habitue pas. Hein. Non, on ne s'y habitue pas, parce que les artistes sont stressés ce soir, demain, mais auront leur stress jusqu'au dernier jour. Parce que il faut que le spectacle plaise, il faut que la sauce prenne, parce qu'un spectacle, on peut engager de très bons numéros, mais c'est pas pour ça aussi que la sauce va prendre, que le spectacle va bien ressortir. Donc il y a toujours ce stress très important.
Et le public, comment on ressent quand on est alors sur une scène de théâtre? On a déjà eu des comédiens qui viennent nous dire, qui viennent nous raconter ce qu'ils ressentent par rapport au public. Comment on ressent dans un cirque comme ça, dans ces salles circulaires, hein, quel lien avec le public?
Le lien est encore plus fort que sur une scène, parce que déjà au cirque d'hiver, le cirque est rond, le public se voit. Il y a une communion entre l'artiste et le public, mais il y a aussi une communion entre le public. Oui. Et c'est ce qui fait aussi que quand la sauce prend, quand l'atmosphère est là, c'est encore plus, encore plus magique. Hein.
C'est parti du 12 octobre au 15 mars 2020, Francesco Bouglione. Merci beaucoup d'être passé par
ici.
Et c'est évidemment au Cirque d'Hiver à Paris. Merci à vous. On entend la petite musique qui va bien et qui nous permet d'accueillir Émilie Mazoyer.
Avec son cerceau. Salut, moi je saute dans un cerceau de feu.
Oui, magnifique.
On vous voit d'ici. C'est vrai qu'on est filmé. Oups, à chaque fois j'oublie. Elle était belle, non, ma petite figure.
Magnifique.
Ce soir, donc, alors, pas de cerceau, de feu, mais le nouvel album d'un garçon qu'on aime depuis maintenant 3 décennies. Ça commence à faire beaucoup d'amour pour Thomas Fersen.
Irons danser au bal des oiseaux près de la rivière.
Thomas Fersen qui revient avec un nouvel album qui s'appelle C'est tout ce qu'il me reste. Il est dans une peau de lapin sur la pochette, mais aucun animal n'a été maltraité.
je tiens à vous le dire. Et il sera notre invité ce soir dans Musique.
Ça, c'est fait. Merci Émilie Mazoyer, merci beaucoup. On vous écoute dans une seconde. Merci à tous de nous avoir suivis. Votre grand journal du soir, c'est de 18h à 20h, vendredi compris, donc à demain.
Et demain, bonne soirée à tous. Et oui, merci. Vous serez là. C'était Nathalie Lévy sur Europe 1.